I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Underscore, votre émission IT préférée. Nous sommes mercredi, il est 20h comme tous les 20h. Comme tous les mercredis plutôt, on se retrouve pour une merveilleuse émission extrêmement chargée aujourd'hui. J'ai l'honneur de recevoir Benjamin Code, que vous connaissez
bonsoir peut-être
déjà.
Bonsoir.
Et Fabien Olicard El Famoso, que je ne présente pas bien entendu.
Ah, cette phrase elle est horrible.
Bah non mais...
Tu sais parce qu'en vrai...
T'es une légende.
Tu calcules le nombre de personnes genre qui me suivent sur les réseaux.
Ouais.
Tu fais un rapport avec le nombre de personnes en France et tu dis en fait il y a 4% des Français qui me connaissent.
Ouais mais si tu rajoutes la fraction des jeunes qui traînent sur internet...
C'est
et
vrai.
En fait tu te retrouves avec un 95%.
Ouais. Est-ce qu'on
du coup j'ai raison de le dire.
Tu n'es pas le Michel Drucker de l'IT de Twitch.
Écoute, on peut instaurer ça. Moi ça me va.
Okay.
Est-ce que tu veux le critère ultime pour savoir si t'es connu ou pas?
Ouais.
Mon père te connaît.
Oh. Ah.
Et il te kiffe en plus. Moi, il te kiffe.
Alors oui, le problème c'est que je connais ton père, il me kiffe beaucoup trop. Il faut vraiment qu'il arrête de me suivre dans la rue.
Je suis un peu désolé pour ça. Papa, arrête si tu veux.
Comme
arrête.
Vous le savez, bien entendu, ce soir c'est soir de match. Du coup, on a décidé avec toute l'équipe de ne rien changer. Voilà. Donc on s'en bat les couilles, on ne change rien. On fait l'émission
c'est vrai
comme
que moi,
d'habitude.
Moi, ça m'a vraiment fait chier de pas voir le match parce que. C'est un peu comme tous les autres matchs, en fait, dans ma vie, je les vois pas.
Tu les vois pas,
ça m'intéresse
c'est ça qui est problématique. Ouais. Non, mais voilà, vous savez, vous pouvez faire un petit double screen, vous êtes pas obligé de choisir. Vous pouvez nous mettre en son, le son d'un match de foot, c'est pas hyper... Les commentateurs, ils répètent la même chose. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Voilà.
Le dernier double screen que j'ai vu m'a complètement choqué, si je peux faire cette mini parenthèse très courte. C'était mon chauffeur Uber à Berlin, il avait le téléphone avec la map d'un côté, et sur la deuxième partie du screen, il avait le match, quoi.
Incroyable.
En conduisant, et il était comme ça, il était serein. Je dis, je dois m'attacher moi ou pas?
Sur un téléphone c'est avec vrai. Le match comme ça, tu dois voir, mais
oui,
rien de
au pire, ça allait de ouf. Et moi, je le regardais depuis le siège arrière, comme ça, je regardais le match aussi, j'étais à fond.
Quelle angoisse.
Voilà, je voulais juste porter cette petite anecdote.
Les invités du jour, Fabien Olicard, qui ne le connaît pas, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, youtubeur, mentaliste, éditeur de magazine, littéralement. C'est
oh,
même pas une blague.
C'est rare, les gens qui percutent ça. Ouais, j'édite aussi un magazine mensuel.
Mais ça, sur Science Sale, je pense que tu sais, on dit souvent, machin, les youtubeurs, ils suivent les trends, ils font des livres, après,
ouais,
ils font.
C'est moi qui fais du papier. Vraiment.
Qui d'autre, honnêtement, qui d'autre fait un magazine?
Mais quand j'ai parlé de ce projet et tout, un peu à droite à gauche, tout le monde me disait, mais personne ne voudra ça, en fait. Et vraiment, moi, c'était un rêve de gosse de faire un magazine papier, un mensuel et tout. Et c'est qui marche bien, parce que, en fait, comme il marchait bien, à la base, je l'ai fait le moins cher possible.
Ouais.
Et comme il a bien marché, il faisait 42 pages, j'ai rajouté 10 pages par mag. Et puis, comme il marche encore bien, j'ai rajouté 10 pages. Donc maintenant,
après,
c'est 62 pages en mensuel.
La Bible.
C'est ça,
tous les mois.
Mais je me dis, c'est en vrai, c'est trop cool. Et il y a pas des millions de personnes qui veulent un magazine, mais
dans ton audience, ça l'a trouvé suffisamment pour lancer le truc, quoi.
En fait, il y a Cyrus North, il a fait une vidéo très importante aussi, mais très intéressante, qui dit voilà pourquoi vous n'allez pas vous rappeler de cette vidéo. Et il explique qu'on consomme les vidéos aussi comme du divertissement, et du coup, c'est pas les mêmes codes pour le cerveau. Et en fait, du coup, tu retiens moins les choses. Et en fait, avec un magazine, c'est encore autre chose. Tu reviendras pas sur une vidéo. Un magazine, tu reviens sur un article.
Tu
dis ah ouais, putain, j'avais lu ça. Attends, je retrouve le truc et tout. Donc, en vrai, c'est une autre consommation, tu vois, un peu à l'ancienne, mais très cool.
Trop stylé.
Et pour les jeunes, mais en gros, moi, le support magazine, en fait, c'est un support que j'ai jamais utilisé de ma vie,
plus ou moins.
Et je pense, Micode, toi.
Quand j'étais petit, il y en avait encore, parce que je suis un peu le plus jeune, on va dire, de ma famille et tout. J'ai récupéré le matériel des anciens et tout. Donc, j'ai lu Youpi et des trucs de ce genre. Mais après, ouais, j'ai décroché, quoi.
C'est quand même un format aujourd'hui qu'on n'utilise plus, quoi.
Ouais, d'ailleurs, j'ai pas mal de stats, parce que moi, j'ai un magazine où je pourrais donner toutes les stats de qui le lit, parce que c'est que sur abonnement, tu vois.
Ouais.
Et j'ai beaucoup de personnes âgées. Mais quand je dis âgé, c'est pas genre 50 ans, c'est des gens qui ont 70 ans, etc., qui sont abonnés au mag, ou alors des personnes, pareil, bah, plus sûrement de l'âge de ton père, qui vont s'abonner pour eux, et après qui vont offrir un abonnement à quelqu'un de plus jeune. Et
oui.
En mode, vas-y, lis ça, en vrai, c'est cool, tu vois, quand t'es dans les transports, quand t'es aux chiottes, machin.
Le premier degré, je pense que t'es vraiment un des youtubeurs les plus 7 à 77 ans. Mais même, j'ai pas envie de dire youtubeur parce que bon, tu fais.
Non, mais même les spectacles en show, je vois les trois générations d'une famille qui viennent.
C'est genre, méga
t'as le franchement... fils, par exemple, là, ça s'est passé la semaine dernière. Le fils qui était avec ses parents et une partie de ses grands-parents. Et en gros, à la fin, aux dédicaces, ils disent tous, bah, c'est lui qui nous a emmenés et tout. Et du coup, je fais, mais vous me connaissiez avant, vous avez regardé une vidéo et tout. Donc, on n'a rien. Et du coup, je dis, du coup, ça va ou pas? Et ils font, ah ouais, non, mais c'est trop cool. Et en plus, tu vois un peu la gloire dans les yeux du fils. C'était le fils en question.
D'avoir fait découvrir.
De, vous avez vu? C'est pas de n'importe quoi. Quand je vous dis les vidéos sur Internet, c'est cool et qu'on peut voir des gens cool, ça va, quoi, tu vois.
Du coup, là, ils ont la preuve.
Ça labellise
le droit de
c'est pas que des vidéos de chats et des jeux vidéo, tu vois.
Non, c'est trop bien. C'est trop bien. Surtout, tu te ramènes, t'en touches un, tu ramènes toute la smala.
C'est le but, c'est le projet secret.
C'est du jeu.
Toi, tu penses pouvoir faire ça avec tes vidéos? Est-ce que tu peux ramener tout le monde?
Je sais pas quand même.
Quand même, si, il y a quand même le côté cybersécurité qui peut intriguer toute la famille.
Ouais, mais il y a une barrière quand même technique à un moment.
Ouais, mais après, t'as le côté gendre idéal aussi. Genre, je suis sûr que ma mère, je te présente, elle te kiffe. Tu vois, t'as un mec rassurant. Ils savent pas ce que nous on
je
sait ce
remercie.
Que tu fais dans la vraie vie, mais eux ils savent pas.
Ils ont pas la vérité.
Et après, en vrai, je crois que les personnes plus âgées qui s'intéressent tardivement à l'informatique, ce qui a été le cas de mes parents, tu vois, ils se sont mis à 60 ans. Ils disaient, ma mère m'a appelé pour savoir comment on revenait à la ligne dans un texte. Je t'appuie sur entrée, elle m'a dit c'est quoi entrée, tu vois le niveau.
Oui, le niveau. Et
depuis qu'elle a découvert MiCode, elle hacke le Pentagone tous les deux
justement,
jours.
Justement, je sais même pas si moi ces gens-là, tu vois.
Ben si, parce qu'en fait, plus ils trouvent de l'indépendance, quelqu'un maintenant, ils m'appellent plus pour rien, tu vois, ça fait 10 ans. Plus ils commencent à flipper en termes de sécurité, ça ils maîtrisent pas. Et du coup, ils pourraient regarder ta chaîne pour ça, ouais, tu vois.
Effectivement.
Ce genre de truc.
Effectivement, c'est bientôt une audience de
7 à 77 pour toi aussi.
Exactement. Pour moi aussi, c'est pour tout le monde. Benjamin Code, je ne le présente même pas parce que je l'avais déjà fait, mais
c'est
quand
la
même...
pire présentation du monde.
Je ne présente pas parce que
je vais faire des ronds sur le canapé.
Tu sais pourquoi je ne te présente pas? Parce que tu es célèbrissime dans cette émission.
Oui, c'est vrai.
Pourquoi? Parce que le petit bonhomme que tu vois en bas à droite,
c'est vrai.
Le nom Gabin, que vous connaissez tous, d'où vient-il? Bien entendu de Benjamin.
Oui, d'une de mes anecdotes incroyables, d'un de mes viewers incroyables aussi.
Ah oui?
Oui,
moi,
qui,
je l'ai pas entendu, là.
Qui en soirée pendant, très rapidement, mais en soirée pendant un live Twitch très compliqué où je codais un truc très compliqué, il m'a appelé et il a décroché, il a fait « Allô, je m'appelle Gabin !» Et c'était un petit gars de 13 ans
qui
m'appelait sous sa couette et qui avait la solution à mon problème super complexe et voilà, un génie.
J'ai la solution,
ah, là,
mais mes
ça.
Parents veulent pas, j'appelle.
Non mais
c'est exactement
ça.
C'est trop fort.
C'était lui qui a du coup donné, légué son nom. Peut-être qu'un jour on l'aura au téléphone.
Mais lui au collège, il dit à tout le monde c'est grâce à moi ce nom et les gens font oui.
Ça va, ah, ça va hein, ça. Le melon.
Ça va Gabin, hein, ça va.
Et honnêtement, je suis chaud pour l'avoir au téléphone. Donc on va lancer la mission trouver Gabin. Ne soyez pas flippants s'il vous plaît. mais voilà, si on peut l'avoir au téléphone, ce sera avec grand plaisir.
C'est trop cool.
Ce serait extrêmement rigolo. Ça va depuis la dernière fois? Tu es retourné à Malaga, voilà, la vie.
Je suis retourné à Malaga, je suis retourné à Berlin, je suis retourné, j'ai pas mal bourlingué, comme ils disent, ces gens-là. Et ouais, non, c'est le kiff. Mais ça y est, maintenant, vous commencez à avoir toutes les choses dont je jouissais de manière solo, là-bas, à Malaga et tout.
C'est
vous,
bon, ça va.
Vous re-kiffez de nouveau.
C'est devenu
aussi
un peu moins inégal, parce que c'était vraiment abusé. Parce que,
à la fin de l'émission, on n'a pas vraiment eu de coupure de bar, de restaurant, tout ça.
Ouais,
jusqu'à
vous avez été
très tard
Covid
le soir.
Free.
On était plutôt bien. Ouais.
Nous, on rentrait dans notre dépression. Lui, il prenait son avion.
Il rentrait dans son bar. Lui.
Exactement. À Malaga, tranquillou.
Ouais, mais ça va. Du coup, pour les nouvelles, ça va très bien. J'ai adoré l'émission la dernière fois. Je suis trop content d'être de retour. Merci pour la réinvitation.
Et ben, écoute.
Et voilà, c'était un plaisir.
C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir.
Non, il faut que tu nommes quelque chose avant de partir. À chaque fois, tu laisses un nom quelque part.
Mais il a changé tout son studio depuis.
C'est faux. Il disait ça en arrivant, mais rien n'a bougé.
Okay.
À part des nouvelles fonctionnalités cassées, n'est-ce pas? T'as pu découvrir comment, c'était quoi l'ambiance où 10 minutes des lives ont débug?
Incroyable. Mais la première fois déjà, quand je suis venu la première fois, t'étais en train de débugger ton live 20 minutes avant que ça commence. Et là, t'étais encore sur ton ordi en mode, je peux dire la feature qui était cassée? Non.
Ouais, bah, tu peux le dire.
Bah, le truc qui met les tweets en avant, là, c'était pété.
Ouais.
Et c'est trop dommage parce que c'était hyper bien comme feature. En plus, tu me l'as montré, ça a marché sur un tweet.
Ouais. Après, c'est cassé. C'est trop chiant. Mais ce serait trop bien, tu sais, les tweets. Les gens, ils peuvent participer au live, quoi, mettre des tweets et on peut les. Mais non, voilà, c'est pas pour cette fois, ce sera pour la fois d'après. Désolé. En fin d'émission, on va aussi accueillir un troisième invité. qui s'appelle Brice Ogras. Ça va être hyper cool. Il est hacker éthique, comme on dit, n'est-ce pas? Et on va parler avec lui d'ingénierie sociale. Et son métier, pour teaser, en gros, c'est littéralement de s'introduire chez vous, dans votre entreprise, légalement, bien sûr. Mais voilà, comme tel James Bond, en fait.
C'est un James Bond intéressant. Le plus dur, avant le live, c'était de pas se spoil en lui posant un milliard de questions.
Voilà, c'est toujours ça qui est compliqué. Vraiment... Je pense que je devrais réduire la durée de pré-live.
Ou nous séparer dans des cases.
Ouais, on va vous mettre dans des salles. Donc voilà, n'hésitez pas à rester avec nous pour cette soirée et à mettre le petit match de côté. Voilà.
Comme le chauffeur Uber.
Ne supprimez pas. Voilà,
en double fil.
Vous l'avez compris, on va surtout parler de manipulation, qui est le hasard avec nos invités du jour. Et vous savez quoi, je me suis aperçu il n'y a pas si longtemps que c'était pas péjoratif comme terme.
Non,
c'est-à-dire que
ça vient une charge péjorative sociétale, mais de base c'est un mot neutre.
Ça veut dire les mains, quoi, manipuler avec des mains.
Ouais, c'est ça. En fait, ça veut dire utiliser un objet dans le but d'obtenir le résultat souhaité. Donc, si je manipule mon couteau pour couper de la viande, si la viande est coupée, j'ai réussi ma manipulation.
Je me scandalise pas. Ouais, je te laisse faire.
Tu fais pas non, petit manipulateur que
mais
tu
non,
es.
Mais moi je me fais vraiment manipulation. Ouais. Ça, il y a un côté.
C'est quand tu vas manipuler des personnes que ça commence à devenir peut-être.
Et encore.
Dans quel contexte tu manipules
quelqu'un? Ouais, voilà. Quelle est ton intention en fait et c'est quoi la bonne et la mauvaise manipulation? C'est comme le chasseur.
Il y a la bonne et la mauvaise.
Et d'ailleurs on s'est un peu servi du côté manipulation à une charge négative pour se dire ok, donc influence à une charge positive, et c'est comme ça que tous les blaireaux comme nous on est devenus des influenceurs parce qu'on était sur les réseaux alors qu'on n'avait rien demandé. C'est un mec de Subdeco qui avait utilisé ça dans un briefing, tu vois,
alors qu'on est que des manipulateurs à la con.
T'as dit Subdeco, je suis même pas sûr que ça existe encore.
Ah ouais, je sais pas, moi, c'est vraiment dans ma tête, c'est vraiment les mecs de Subdeco qui ont dit voilà, c'est des influenceurs et on va monter un projet là-dessus, et que d'un coup ça rentrait dans le langage courant et tu fais mais les gars. Et
du coup, mais ça marche bien parce que surtout, influence, manipulation.
Ouais.
On dirait presque un titre de bouquin.
Oui.
Oui, oui.
C'est un titre de bouquin.
Waouh, on commence à faire des vannes. Le Michel Drucker, il est pas si loin là.
C'est ça. Michel Field, hein. Ouais, on a tous les vieux réunis.
Exactement.
Ici.
T'es aussi là pour nous présenter ce magnifique bouquin, n'est-ce pas? L'anti-guide de la manipulation. Disponible bientôt dans vos librairies.
Dans les librairies, partout. Mais en vrai, je savais même pas qu'on en parlait ce soir, donc tant mieux. Bah, parce qu'il faut savoir que tu m'as même pas dit.
Non, il n'y a pas de brief, tu sais, ici on est, voilà, on est au calme.
Et je suis très fier, il est sorti en format audio avant-hier. En vrai. Et alors, en temps normal, il faut 6-7 mois, et là, on s'est un peu arraché les dents aussi avec la loi, parce que tu sais, pour pas tuer le format papier, il faut pas que le format audio sorte trop. Et comme c'est moi qui produis tout, je peux peut-être faire ce que je veux de mon matos. Ouais. Et donc, il est sorti et tout, dont chez Audible. Je sais qu'il y en a qui détestent Amazon.
Ouais.
Mais en tout cas, c'est grâce à eux qu'on a réussi à le faire.
Et
il est là-bas. Et je crois que vendredi, je sors une vidéo avec un partenariat Audible.
Ok.
Et du coup, le partenariat que j'ai dealé, c'est qu'il y ait 2 mois gratuits sans engagement chez Audible.
Ok. N'hésitez pas.
En gros, si vous avez envie de l'écouter, vous pouvez l'écouter gratuitement à partir de vendredi et vous désabonner après.
Ah oui, oui.
Effectivement. En fait, c'est ça ma conclusion. C'était pas que pour parler de mon partenariat, c'était pour dire. J'ai vraiment essayé de faire un truc triangulaire où, au final, vous pouvez l'avoir gratuitement et c'est un peu Audible qui paiera, quoi, tu vois.
Trop stylé.
Et question peut-être bête qui peut-être ne l'est pas non plus. Quand tu fais un livre audio, parce que j'ai jamais écouté de livre audio de ma vie, c'est toi qui enregistres l'audio de ton livre ou pas spécialement?
Eh ben, alors, pas forcément.
Pas forcément.
C'est même plus souvent non que oui. Parce que déjà, c'est une plaie d'enregistrer un livre audio. Moi, je mets 4 jours. Un pro met 2 jours. Donc déjà, moi, je suis une plaie pour le studio parce que je vais deux fois moins
vite. Attends, c'est toi qui le fais ?
Et moi, j'ai voulu le faire. J'ai tous mes livres audio, j'en ai 4. Je les ai enregistrés tous les 4, tu vois.
T'as pas des crampes à la mâchoire ?
T'as surtout des crampes à ton ego parce que tu t'aperçois qu'en fait, on parle super mal et on a tous plein de trucs qu'on prononce très mal, mais on savait pas tant, tu vois.
Tu te rends compte que c'est un métier qui est en fait...
Ouais, et attends, là, c'est donc des comédiens professionnels qui enregistrent les voix et moi, j'écoute pas mal de livres audio. J'en ai déjà enregistré 4. Et dès que j'en écoute un autre, je dis « Ah ouais, mais voilà, c'est ça que je sais pas faire. » En fait, ils sont capables de lire lentement, mais t'as pas l'impression que c'est lent, et en articulant et avec des intentions. Parce qu'on te demande de lire lentement, c'est genre 150 mots minutes. Dans la vraie vie, on parle à 200 mots minutes, et nous qui faisons des vidéos, en général, on fait 250 mots minutes, tu vois. Et tu dois lire lentement les livres audio, et t'as toujours des options pour les écouter plus rapidement, si tu veux. Et moi, quand je baisse le rythme, ça baisse toutes mes intentions. Tu sais, j'arrive plus à mettre de la charge intentionnelle dedans.
Youpi!
Ouais, c'est un peu ça.
Oui, voilà!
Bon, je me suis amélioré, rassurez-vous, mais je suis quand même pas à la hauteur d'un comédien pro, là-dessus.
Je me demande si c'est automatisable. En vrai, Parce qu'on commence à faire de...
Gabin, ramène-toi encore.
En vrai, je pense relativement possible.
Parce qu'on commence à faire de mieux en mieux de la synthèse vocale, mettre des intentions, etc. C'est pas impossible que ce
tu
soit un métier.
Et si tu pouvais mettre des petites balises de ironie, de machin, tu sais, pour des petits cas particuliers que tu devrais rectifier, c'est ok.
Je pense, c'est non. Honnêtement, c'est pas si loin. N'hésitez pas à nous partager dans le chat si vous avez des références. Ça nous intéresse. Un truc que je me suis noté, c'est que je suis pas sûr qu'on ait déjà raconté comment on s'est rencontrés.
Ah ouais, moi j'en ai jamais parlé, j'ai très honte.
Je sais pas,
ça m'intéresse.
J'ai honte et j'étais bourré, donc non, je rigole. Non, c'est marrant comment
c'est hyper rigolo parce que c'est extrêmement factuel si je dis que si je t'avais pas rencontré, on serait pas là. C'est-à-dire que moi j'aurais jamais fait de chaîne YouTube.
Ah, c'est rigolo.
Mais c'est vrai, j'aurais, si tu suis la chaîne des événements, j'aurais pas fait ma chaîne YouTube, on n'aurait pas lancé cette émission et on serait pas là en live. Parce que du coup, c'était une époque où moi j'apprenais le code. Et je me mettais à créer voilà des sites, des applis, etc. Et j'étais dans mon rêve étudiant de créer des applis à succès, tu vois. Et ou tout simplement que des gens utilisent mon travail, tu vois. Ce qui est pas du tout évident quand t'es jeune développeur et que tu fais des trucs pas ouf et pas utiles. Et du coup, je me suis dit, une stratégie, ça pourrait être de regarder mes youtubeurs préférés que je regarde souvent. À l'époque, je regardais beaucoup Fabien. Je me suis dit, de quoi il pourrait avoir besoin, tu vois? Qu'est-ce qui pourrait l'intéresser? Et du coup, à l'époque, tu parlais pas mal de
table de rappel.
Voilà, exactement. De stratégie, tu me coupes si je dis une bêtise, mais de stratégie pour mieux retenir les choses. Dont certaines qui s'appellent la table de rappel. Et je me suis dit, ce truc-là, c'est trop bien. Mais c'est un truc où il faut travailler.
S'entraîner un peu régulièrement au départ. Et
du coup, si j'arrivais à transformer ça en jeu, en truc un peu gamifié, Et ben peut-être ça pourrait l'intéresser.
Et en plus, t'avais même des idées d'achat in-app qui étaient pas cons, qui étaient de se dire, et après tu fournis du contenu mémoriel dont tout le monde pourrait avoir besoin, avec déjà la table de rappel associée, ils peuvent débloquer ça et s'entraîner là-dessus et tac tac.
Grave. Ou alors récupérer la table de rappel de quelqu'un Fabien, d'autre, qui connaissent déjà, etc. Bref, et j'avais développé ce petit truc et je l'avais envoyé par mail à Fabien, sachant qu'à l'époque vraiment j'étais étudiant, je connaissais encore personne du tout, donc vraiment en mode bouteille à la mer. Et c'est là où honnêtement je suis impressionné, parce que maintenant que je sais comment c'est difficile, franchement respect, mais t'as vu mon mail et t'y as répondu.
Ah, je regarde tous mes mails.
Mais ça c'est fort, C'est que moi maintenant du coup que je sais que la galère, je rétrospectivement, bien joué tu vois. Et non seulement on t'aime bien, mais tu me proposes qu'on se rencontre.
Ouais.
Ça c'est pareil. Incroyable. Tu vois, franchement, mais après coup, t'es un fou, tu vois.
Mais non, mais après, je me dis, faut que ça passe par l'humain. Je me souviens que je t'avais donné rendez-vous dans un bar qui est à 3 mètres de chez moi, mais en te disant juste, je serais dans tel quartier à ce moment-là et tout. Tu vois, faut pas qu'il vienne au bureau quand même et tout. Parce que tu dis, ok, le mec, il a une compétence. T'en mets un détail. Ton mail est très bien formulé, etc. Donc t'as un bon a priori positif, tu vois, et tu sens que ça gratte pas non plus et qu'il y a moyen, donc tu dis il a une compétence que j'ai pas, donc si je rencontre l'être humain et que ça matche aussi un peu humainement, il y a peut-être moyen de travailler. Et en plus, moi j'avais le prochain spectacle en tête où je voulais une app dans le spectacle et je voulais en parler.
Je me
demandais
justement si t'avais déjà potentiellement en tête.
Même si j'avais rencontré des gars qui codaient, tu te souviens, il y avait un truc en cours et tout, en plus ils prenaient beaucoup plus cher que toi pour pas grand chose. et du coup, quoi qu'il arrive, il y avait que des checks de en vrai faut qu'on se connaisse, et j'essaie toujours d'avoir le truc de c'est pas parce que t'as pas le temps et c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'écrivent que tu dois te faire avoir par le biais cognitif de non allez c'est bon, tu vois, prends toujours un tout petit peu de recul sur sur le
ça
point de contact en disant alors en fait c'est qui, c'est quoi et pourquoi ce serait non direct, et sur toi c'était ok direct et on s'était vu puis un verre,
c'est grâce à ça justement. Bah grave, moi j'avais trop aimé. Bah forcément, j'étais en mode « Waouh, je l'ai rencontré, Fabien Olicard, trop bien !» Et il y a une chaîne d'événements qu'on va pas détailler, mais qui est assez ouf, où derrière, je t'ai aidé à faire l'application du coup de ton spectacle. Moi j'étais en mode « Ah mais trop bien, je suis en contact avec Fabien, ça me donne trop envie, il faudrait que je fasse une chaîne YouTube. » Et puis honnêtement, je me suis dit « Si un jour potentiellement on parle de l'appli et tout, c'est trop dommage que j'ai pas un truc à présenter en mode « Et voici mon travail, vous pouvez me suivre ici et tout. » Et du coup j'ai lancé ma chaîne. Ce qui n'était pas prévu, c'est que ça a fonctionné. Et du coup, je suis revenu te voir beaucoup plus tard, en fait. En mode, et du coup, ça a marché entre temps. Après, on a fait une vidéo.
On a fait une vidéo ensemble sur ma chaîne.
Je pense que c'est ça qui a ramené énormément d'abonnés, moi, au début de ma chaîne. On peut voir les courbes. C'est ça. Donc, insane visibilité et tout. Et puis derrière.
En plus, toi, t'as eu le même talent que moi. C'est-à-dire que quand on a fait la vidéo ensemble, ça t'a rapporté vachement de monde. Mais en fait, surtout et aussi parce qu'il n'y avait pas tant de profils comme toi identifiés sur YouTube.
Bah, il y a sûrement plein d'événements.
Évidemment, tu vois, mais tu vois, t'as amené quelque chose de très nouveau, tu vois. Et moi, quand j'avais fait ma vidéo avec Doc Seven, ouais, je sais que j'ai eu vachement de monde parce que Doc est suivi, mais aussi juste déjà par la curiosité de une thématique
nouveau,
que j'ai
truc,
pas dans mes abos, c'est cool, quoi, tu vois.
Ouais, carrément. Bref, c'était la petite histoire.
Incroyable. C'est
marrant,
j'ai ignoré complètement.
Qui crée une chaîne d'événements depuis, donc, c'est début 2017, ça.
Exactement.
Et qui crée une chaîne d'événements où, où on
est
là.
Pour la petite histoire, son appli s'appelait Mentable. Et du coup, son nom de famille a été durant 2 ou 3 ans Mentable dans mon téléphone. Et ça s'est changé très récemment.
Je m'appelais Mickaël Mentable, quoi. Y a pas de souci. Bref, donc voilà, si on l'avait jamais vraiment,
je
l'avais pas raconté. C'est une anecdote hyper rigolote.
J'en avais honte.
Oui, c'est peut-être. Ouais, mais après, je comprends maintenant. Je comprends. Mais voilà, si vous étiez pas au courant, maintenant vous l'êtes. Maintenant, on va passer à une section que vous attendez, je le sais, depuis un moment. On vous a demandé il y a environ 2 semaines sur Twitter de nous envoyer vos meilleurs projets. Comme on sait qu'il y a beaucoup de développeurs, de bidouilleurs parmi vous. On est intéressé de savoir ce que vous faites quand vous rentrez chez vous sur votre ordi. Pas forcément les trucs les plus intelligents. Le but, c'est justement d'aller sélectionner les trucs un peu rigolos, parfois aussi des trucs utiles. On en a reçu, pour vous dire, énormément, et c'était trop bien parce que les gens, ils se répondaient entre eux, ils découvraient des projets, ils proposaient des fonctionnalités, etc., les autres. Donc ça crée un truc trop cool. Donc c'est sûr qu'on va continuer. Il y avait environ un quintillion de bots Discord
au repos.
De bots Discord au repos?
Non, je sais pas, j'avais envie de moi aussi de mettre un terme que vous compreniez pas parce que vous faites que ça avec moi. Donc je vais faire ça tout le temps aussi.
Un quintillion,
bah. Qu'est-ce que ça fait
Alors, pour le coup, il m'a un peu laissé sur le siège aussi. J'ai fait genre, j'ai souri comme ça.
Bon, énormément de projets. C'est bon,
ça va.
C'est validé. Que vous nous avez envoyé. Notamment beaucoup de bots Discord. On en a sélectionné qu'un seul. Je sais pas pourquoi il y a un truc avec les bots Discord, mais c'est un bon site, ça veut dire que c'est un bon premier pas, je pense, quand t'es développeur. T'as déjà fait un bot Discord, toi?
Non. Et foutez-moi la paix avec Discord, bordel. Genre,
aujourd'hui, il y a un truc avec Discord.
Si t'es quelqu'un, aujourd'hui, il te faut un Discord. Si tu existes dans la vie, tu dois avoir ton Discord associé. Foutez-moi la paix. Ça te bouffe ton temps, ton énergie.
Moi, j'ai la même chose avec WhatsApp.
T'as WhatsApp ou tu l'as pas?
Je l'ai pas.
Et tu as un point d'honneur à ne pas l'avoir.
Pour tous les projets, mais
fait ouf. Ah, mais ça, moi, je fais un groupe sur WhatsApp, mais vraiment, il y a eu des gros projets. On m'a dit, si t'as pas WhatsApp, on pourra pas travailler ensemble. Et j'ai fait, ok. Et au final, on travaillait ensemble. Donc, et depuis, je commence à avoir, pour le coup, un biais cognitif de trucs où je me dis, c'est que de l'ego, quoi. Je veux pas WhatsApp.
Je comprends de ouf.
C'est ton honneur en jeu.
Mais t'as ça sur WhatsApp, fais même pas de Discord alors, hein.
Ça fait 2 ans qu'on me tanne pour en avoir
un. C'est la même chose.
T'en as un aussi, toi, ou pas?
J'en ai pas.
Mais tout le monde nous tanne, c'est un truc de ouf.
Underscore n'en a pas, mais honnêtement, c'est pas impossible que ça arrive parce qu'il y a un sens pour le projet Underscore.
Pour le projet Underscore, complètement.
Parce qu'il y a un truc communautaire et tout. Ouais. Mais je suis hyper d'accord que tout n'est pas voué à être un Discord.
Sur une personne, avoir un Discord, ça fait un peu ego trip, ça fait un peu genre ta secte, tu vas dedans, quoi.
C'est mon modérateur, il a manqué une bête de trucs. Et on l'ouvrira que si je lance un truc que je voulais faire, c'était des libres antennes, c'est l'année 90, tu vois, sur Twitch. Et je me dis, là, ça a du sens parce qu'on peut vraiment faire les salles d'attente avec quelqu'un qui prend, sélectionne le sujet, qui me le met après. Là, ça peut être super pratique.
Mais il y a un objectif clair.
Ouais, c'est pas juste
voici une cour de récréation.
C'est ce que j'aime chez Fabien Licard.
Ouais, c'est ça.
Parce que Discord, ça reste un méga outil. C'est ouf, hein. C'est incroyable. Je l'utilise pour plein de choses. C'est fabuleux. Mais juste, ton Discord à ton nom, franchement, c'est un peu
toujours logique. En fait, pour rien. On comprend que ça peut être, souhaité par les gens, tu vois, ça peut être un moyen de rencontrer des gens qui aiment les mêmes choses que toi, peut-être. Mais voilà, il faut que la forme soit au rendez-vous, il faut qu'il y ait un truc derrière, que ce soit un projet un peu plus
tous les Discord que j'ai vu sur des noms d'ailleurs, dans tous les salons, t'as toujours le salon on blablate de tout et de rien et c'est celui-là qui est actif en fait,
bien sûr.
Et ça devient juste des chats,
Et le truc, c'est une taille critique et ça marche à 150 et pas
exact.
À 5000, ça devient complètement absurde. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et on va review vos projets. C'est le README. C'est parti. Comme vous voyez, encore un nouveau format. On n'arrête pas de lancer des formats. Mais potentiellement, je vous disais, le README, c'est prêt de revenir. Voilà, parce qu'on aime bien. Et puis parce qu'on ne va pas vous mentir, on en a sélectionné quelques-uns. Mais parmi les 125, je crois, qui ont été soumis, Il y aura beaucoup de déçus malheureusement, mais vous inquiétez pas, voilà, c'est le premier d'une série. Vous aurez l'opportunité de repasser si vous n'êtes pas passé cette fois-ci.
Alors que sur ton Discord, t'aurais pu tous les refs.
J'aurais. Oh, putain.
Enfin bon.
Je fais ça. Discord.
Si tu chies dans les bottes de tes abos.
On commence avec le Gabin, si tu veux, il y a oui, ça c'est le tweet du coup. Mais Gabin, si tu veux nous envoyer le premier tweet, ça s'appelle Drobot. Donc c'est le fameux unique bot Discord qu'on a sélectionné. Okay. Et c'est assez cool, surtout si vous êtes étudiant. Alors, à mon époque, je dis à mon époque. C'est bien pas si longtemps, honnêtement.
Tu sais, à l'époque.
Mais on était
on collait avec, comme ça. On taillait le code dans la pierre directement.
Ça
serait stylé.
Toujours Michel Drucker, on reste là-dessus.
J'ai envie de voir cette illustration de quelqu'un qui taille du code dans la pierre. J'ai vraiment envie de la voir. Quelqu'un dans le chat, faites-vous plaisir.
Du coup, moi, j'avais pas Pronote. Mais apparemment, Pronote, du coup, c'est l'outil qui est utilisé par genre l'éducation nationale. Donc, okay, dans toutes les écoles, les professeurs peuvent mettre les devoirs, entre autres choses, et les élèves peuvent voir s'ils ont des nouveaux devoirs. Et sauf qu'ils n'ont pas de système de notification. Et du coup, Drobu nous a fait un super bot Discord qui vous prévient sur votre channel si jamais vous avez des devoirs à faire, tout simplement.
Et mais, donc, mais et en même temps, il vient de réparer un manque.
Exactement.
Évident pour l'app.
Mais bien sûr.
C'est incroyable qu'il n'y ait pas de notice.
C'est ça qui est mourir de rire, c'est que le lendemain, on a aussi reçu un autre tweet qui nous disait qu'il l'avait aussi fait, mais en mode appli Android. Okay. Et c'est utilisé par plus de 10 000 étudiants.
Ouais.
Tu te rends compte? C'est-à-dire que l'implémentation de la fonctionnalité dans Pronote, alors, elle arrive après que d'autres gens aient fait des alternatives qui ont 10 000 utilisateurs.
Au pire, c'est une fonctionnalité vraiment très spéciale. Tu sais que quelqu'un a codé à côté, tu te dirais, bon, ok, ouais, ça se comprend. Mais là, c'est juste envoyer une notif, quoi. Ouais. Genre, tu te dis,
c'est vraiment très
si le prof rajoute un truc, ce serait bien que l'élève le sache. Bon,
c'est trop bizarre.
Donc voilà, apparemment, il fait du scrapping, comme on dit, donc il va récupérer les informations. Il y a une leak qui s'appelle Pronote Pie, donc voilà. Je savais pas, il y a un écosystème autour de ce truc.
Le truc que personne n'en entend parler.
Incroyable. Ton mot s'est écrasé là-bas.
Un truc dont personne n'a jamais entendu parler. Nous,
c'est parce qu'on est plus étudiants, donc on n'est plus au courant. Mais...
Serions-nous des boomers?
Voilà, mais apparemment, bon, bah, dans le chat, ça.
God, c'est un boomer. Chut.
Non, le mec derrière.
Je voulais vous raconter une petite anecdote à propos de trucs étudiants. C'est que moi aussi, j'en avais fait une.
Ah!
Eh oui! Donc ça, c'était quand j'étais à l'université.
C'est très expérimentable. Hein. Je crois que t'as utilisé le même bleu, tu vois.
C'est possible. Ouais. C'est possible. C'était, voilà, j'étais déjà dans le mood de faire des trucs de ce genre. Et du coup, c'était une appli pour voir ton emploi du temps. Il n'y avait pas de super moyen de le faire. Et j'ai profité du fait que ce soit totalement public. Il fallait juste ton identifiant dans l'université. Et tu pouvais récupérer
Ok.
Il n'y avait pas de mot de passe, tu vois.
Ah, okay. C'est drôle. Donc,
tu pouvais sûrement consulter l'emploi du temps de tout le monde.
De tous tes potes. Mais honnêtement, c'est pas si critique, tu vois, comme info, surtout dans une petite université. Du coup, voilà, j'avais fait cette application. Certains qui étaient dans l'université s'en souviendront peut-être.
C'est incroyable.
Mais elle a disparu parce que c'est un enfer de garder des applis sur les stores. Je suis même pas sûr que l'appli qu'on avait fait pour le spectacle tout va bien.
Moi là, je m'en sers plus, donc j'ai juste gardé la data et voilà.
Je pense que tu sais, ils changent des trucs tout le temps, c'est un enfer. Enfin,
bah tu te souviens, il y a eu avant chaque date, dès qu'on reprenait la tournée, je l'appelais, j'étais y a plus rien qui marche. Et on savait pas pourquoi, c'était très relou. Mais tu sais que j'ai codé un peu moi dans ma vie.
C'est vrai.
Mais je vous jure que c'est vrai, je me suis dit, faut que je le place quand même.
Bah bien sûr.
Sur un truc en marbre voilà comme ça. Bah
presque, c'était Visual Basic et un C++. En fait, à l'époque où moi j'ai connu l'avant CD. Donc j'ai connu le CD, donc j'ai connu après les graveurs de CD, donc j'ai connu les logiciels qu'on se vendait 100 francs, quoi, tu vois, dans la cour du lycée. Et donc j'ai chopé ça, et j'ai toujours été passionné en fait par l'univers geek et tout. Et j'ai commencé à coder un peu en apprenant comme ça, pour le coup, tu vois, à l'arrache. Mais je me lançais des projets nuls.
Ouais.
Genre le premier truc que j'ai codé, mais ça m'a pris ma vie, c'était de me dire, ok, je fais une route, je symbolise une route, tu vois. Je fais des blocs qui représentent des voitures qui vont partir avec une vitesse aléatoire et qui vont changer régulièrement. Et après, je me suis dit, hey, c'est marrant, ça passe de 0 à 100, faut peut-être que je fasse des trucs un peu plus, tu vois, avec d'autres voitures qui arrivent. Et quand elle va plus vite que elle et que a priori elle a pas de raison d'avancer, il faut qu'il change décroche de fil, mais s'il y en a déjà d'autres,
il faut qu'il attende d'autoroute.
Exactement, donc il ne servait à rien. Après, le jour où ça a marché, j'ai regardé 5 minutes et j'ai fait supre, tu vois, c'est aucun intérêt.
Il a simulé visuellement une autoroute.
Mais c'est juste pour me donner des challenges, mm-hmm. de m'obliger à comprendre ouais. un peu, tu vois.
Ça pourrait faire une bonne blague, tu vois. Genre, je sais pas, un mec, tu vas vendre ça à un fermier, tu sais, qui a des vaches. Et tu lui mets un écran avec l'autoroute.
Ouais.
Attends, mais
les vaches regardent.
Exactement.
Ouais, des trains, du coup. Ouais.
On est d'accord que normalement.
C'est des vaches cyberpunk.
Quand t'apprends et que tu cherches des projets pour te motiver et tout, tu essaies de faire des trucs qui te font un peu kiffer quand même.
Mais moi, je partais
et
de
à quel
rien.
Moment, oui, non, mais à quel moment, genre, te dire, je vais faire une autoroute, ça va me faire kiffer.
En fait, je crois que je me suis dit, si j'arrive, en fait, il y a plein de paramètres à gérer et si j'arrive à tous les comprendre, c'est que j'ai commencé vraiment à comprendre un peu comment ça se passait. Tu vois, je m'étais dit, il y avait le côté aléatoire de la vitesse, il y avait le côté de faut changer de fil ou faut se rabattre, mais il faut quand même surveiller ce qui arrive derrière.
Ce qui est mort, c'est et que personne ne marche comme ça.
Mais non, personne, ouais, exactement.
Personne d'autre n'a codé pour un truc inutile. Ouais.
Ce projet a l'air méga complexe et si je le fais, ça veut dire que je serai ok. Normalement, les gens se disent, oh, j'aimerais bien faire un jeu vidéo, et ils commencent à faire.
Ouais, mais moi, j'aurais pas su par quoi partir pour un jeu vidéo. Quoi,
ouais, ou alors t'as besoin de telle chose que t'arrives pas à faire, du coup, t'es obligé d'apprendre à coder pour y arriver.
Ouais,
tu
non, ça m'intéressait pas.
Là, c'était purement genre le plaisir de la théorie.
Ah, ouais, c'est ça, ouais. Mais en même temps, moi, j'ai fait ça toute ma vie. Hein. Ouais. En gros, ça, j'ai pas rentré dans le détail, je raconte ça dans un autre bouquin, mais j'étais passionné par l'informatique, j'avais pas de thune pour m'acheter un ordi. Donc, par contre, j'avais de la thune pour récupérer des bouquins à la bibliothèque ou quoi. Et donc, la première fois que j'ai touché un ordi, je vous jure que c'est vrai, c'est pour donner un cours d'informatique à l'adjoint au maire de mon village. D'accord. Et je connaissais toute la théorie okay. et j'ai fait croire que je savais, tu vois. Ouais. Je donnais un vrai cours dessus, mais c'était la première fois que je touchais un ordi à l'époque, quoi, tu vois.
Mais oh, t'étais bouffé les bouquins avant.
C'était
quoi.
Windows 3.11, j'étais abonné à Windows Magazine et tout. Allez, tac, 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 on y va.
N'a aucun sens. Cette anecdote n'a aucun sens. Mais parfait.
Le projet suivant.
J'avais pas d'amis non plus à l'époque, peut-être.
Ah oui, peut-être un lien, ouais.
Si j'arrive à hacker le computer, j'aurai des amis.
C'est possible.
Et alors, ton autoroute, t'as filé des potes ou
pas du tout, non, okay. Il a vraiment fallu faire une chaîne YouTube, hein, les amis.
Ça, c'était compliqué. Le projet suivant est un projet qui n'est pas voilà, vous reconnaissez peut-être une personne sur
regardez bien la thumbnail, regardez bien ce qui se passe ici, vous avez bien capté.
Voilà, donc il se peut que le jury soit un peu corrompu, qu'il y ait eu des pots de vin
ou que ce projet est d'utilité publique, sûr, et même Fabien va vouloir l'utiliser.
Bien sûr. Bien entendu.
Mais alors, c'est quoi, du coup? Je suis très curieux de savoir.
Et justement, bref, j'aimerais ce que tu peux vendre à Fabien ton invention.
Fabien, tu es youtubeur?
Exact.
As-tu déjà essayé de tester ta thumbnail, la nouvelle thumbnail que tu viens de créer?
Pas du tout.
Et ton nouveau titre de vidéo?
Bah, j'aurais aimé. Mais je n'ai pas pu.
Ouais, non, il joue trop bien le rôle du client, en fait.
Il m'a bluffé, il m'a auto-bluffé dans mon propre game. Eh bien, si tu veux tester ça, en général, la solution, c'est de faire un screenshot sur Photoshop, vite fait, de remplacer ta thumbnail, etc. C'est un peu chiant, on est d'accord?
C'est très très chiant.
T'aimerais bien avoir juste une petite extension Chrome, tu cliques dessus, t'envoies ta thumbnail dessus et ton titre de vidéo, et ça te remplace, ça te fout ta thumbnail et ton titre directement dans la homepage YouTube, et comme ça, tu peux voir si c'est cool ou pas.
Bah, c'est ce que je recherche, mais ça n'existe pas.
C'est parce que tu avais ce besoin-là, Fabien, que je me suis proposé. Avec ma communauté, on a fait un logiciel libre, enfin, on a fait une extension libre qu'on a codé tous ensemble à quatre mains, enfin, quatre mains multipliées par beaucoup. Et en fait, on a créé cette petite extension-là.
Très vieux.
Incroyable.
Tu sais que j'ai compris que tout à l'heure.
C'est vrai.
Oui, mais l'idéal pour s'en servir, ce serait une extension directement.
Eh ben, c'est une extension directement.
Waouh! Waouh!
Je me fais propre. Mais non, mais avoue que ça serait méga utile.
Mais c'est trop bien, en vrai.
Alors,
mais
ouais, de ouf. Nom de Dieu.
Non, mais avant que je sache que vous fassiez ça, ouais. Nous, on fait ça. On a fait un mock-up, comme on dit, ouais. Photoshop, ouais. Où on s'insère dans la homepage YouTube et on regarde un petit peu pour les
vidéos. Ouais.
Voilà,
oui, titres. Mais sauf que les vidéos sur son mock-up, elles sont
mais
pas
oui,
mises
ça
à jour.
Mais oui, elles s'actualisent pas.
C'est
ça. Même
c'est trop bien.
Il y a un effet où toi, ça se met à un endroit random, j'imagine.
Ouais, oui, tu peux le choisir un endroit random pour essayer après de la retrouver toi-même dans le truc, etc. T'as tout ça, quoi. Et en plus, ce qui est trop cool, ouais, c'est que ça te met ta chaîne YouTube, ça te remplace une des cartes de la homepage par la tienne, en fait.
Okay.
Et c'est méga cool. Moi, je m'en sers tout le temps et ça te permet de, après, tu vois, si ta thumbnail est cool, mais que ton titre est nul à chier, bah, tu recliques juste sur l'extension, tu changes le titre et poum, ça remet
c'est
le nouveau titre
bien.
Et tout. Et franchement, je pense que c'est vraiment un outil qui répond à une problématique, de tous les amis YouTubeurs. Et
grave cool.
Et il n'y a pas vraiment d'extensions aussi simples d'accès et d'utilisation que celle-là.
En fait, je pense que ça ne pouvait être qu'un projet de ce type-là communautaire parce qu'il n'y a pas d'argent, je pense.
Il n'y a aucune argent à se faire. C'est pour ça que moi, j'en fais une pub relativement limitée.
C'est
que
c'est... Non, mais c'est trop bien.
Mais c'est super utile.
Ça a été designé d'ailleurs par notre ami Basti.
Voilà. Basti, un autre gars qui est youtubeur aussi. Okay. À un moment, moi, tu sais, j'avais fait le prototype. Il était tout moche, tout pourri, tout dégueulasse. Mais j'ai dit, OK, les amis designers. L'extension est là, elle fonctionne. Maintenant.
En open source, si quelqu'un veut la pimper.
À vous de mettre la main à la pâte aussi parce que je vais pas quand même tout faire. Et donc, du coup, Basti a fait un truc pendant son live Twitch. Il a fait un design. Ah, et après, cool. il a uploadé sur le repository du projet, le repository open source. Quelqu'un est venu par derrière. Il a dit, ah, c'est ça les maquettes. Mais je les intègre. Il les a proposées sur le repository.
C'est une belle histoire pour un beau projet.
C'est beau.
Tu
nous fais une publicité du livre, là, qui est
magnifique. Ouais. Bah, c'était mon premier projet open libre, open source, open libre. Bon, aussi éclaté là-bas. J'en ai marre. À la fin, je vais retrouver tous mes mots éparpillés sur le mur.
Sur mon mur.
Mais oui, tu comprends que c'est long de lire un livre audio, tu vois.
Oui, c'est très long. Je veux bien te croire. Et en tout cas, c'était mon premier projet open source. C'était une expérience trop cool. Et au final, c'est un outil que j'utilise moi-même au quotidien. Donc, c'est super bien. Je suis très
bien. Vous pouvez aller voir ça. Fabien, tu pourras télécharger si ça t'intéresse.
Je suis futur utilisateur.
Tu me dis si tu l'utilises.
Bah, non, mais je vais l'utiliser, mais vraiment.
C'est sûr, parce que non, ça répond à un besoin, en vrai.
Un vrai besoin. Et en plus de ça, c'est à un moment donné où ça me le fait à peu près une fois par an et après je lâche, où je me dis, j'en ai vraiment rien à foutre de mes vignettes et de mes titres, faut que je me reprenne là-dessus. Ouais. Tu sais, on s'est chié à faire un bon produit et puis après on fait un paquet cadeau de merde,
c'est
comme
terrible,
là, tu
c'est
vois.
Terrifiant.
Et donc là, j'ai repris un peu la mécanique de, allez, Fab, tu fais gaffe. Et donc, ça rentre vraiment dans le truc, tu vois. Bien.
Tu me laisses un petit mot sur Twitter si tu l'utilises.
Absolument.
À un moment donné, ça me fera un plaisir gigantesque.
Super. La bonne pub. On va essayer de vous le mettre dans le chat ou alors vous pouvez taper preview, n'est-ce pas?
Ça doit se trouver.
Preview. Sur le Google. Je vous en montre un dernier. Ça s'appelle Hello Météo. C'est Florent Pergoux qui nous l'a fait. Et ça m'a permis de découvrir. Le potentiel de troll est beaucoup plus limité. Hein. C'est bien plus sérieux. Mais ça m'a permis de découvrir une techno hyper intéressante. Donc en gros, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a créé un script qui génère des posts TikTok et Instagram où tu y découvres la météo en vidéo. C'est-à-dire qu'il n'a pas créé un générateur d'images, mais c'est un générateur de vidéo qui va automatiquement récupérer les informations
data,
de quel temps fait-il en France. Et là, si tu en mets une, en gros, ça te montre par région le temps, tout simplement.
Très cool.
Et lui, il le génère avec une seule ligne de commande, tu vois. Donc c'est ça qui est incroyable. Et pour ça, il utilise un outil qui s'appelle Remotion, et qui en gros utilise, alors ça va plus te parler, mais React, qui utilise React pour faire de la vidéo en fait. Donc avec du code, t'écris des lignes de code, et tu peux générer des vidéos
c'est
derrière.
Incroyable.
Automatiquement. Donc ça, c'est pour ce genre de format où il y a beaucoup de répétitions, etc. C'est juste insane. Et surtout, tu peux directement, comme c'est du code, aller se connecter à une API qui fait de la météo. Bah, du coup, c'est extrêmement simple, quoi.
Bah là, son truc, il tourne tout seul, en fait. Il a même pas besoin de lancer une commande. Il a un bot qui tourne.
C'est ça qui est fou, c'est qu'il a un générateur de contenu.
Mais moi, je me dis, en tant qu'entrepreneur, je me dis, putain, mais vraiment, ça prenait deux jobs. Ça prenait deux CDI plein temps pour créer du contenu comme ça et le retraduire. C'est trop fou.
Là, c'est full auto et sur un serveur, ça coûte 2 euros par an, quoi.
Moi, je pense qu'avec cette techno-là, on peut remplacer Hugo Décrypte dans pas longtemps. Bien sûr.
On va faire ça, on va organiser ça. Donc voilà pour vos projets. On va faire d'autres Redmi. On est bien conscient qu'il y en a
c'est
que
une super
fraction.
Intéressant.
T'as bien aimé?
Ouais.
Mais bien. En vrai, on se rend compte qu'on a des petits génies aussi qui suivent tout.
Qui appellent sous la couette.
Et j'ai des tas de projets à vous foutre, moi, dans le Redmi encore. Enfin, même des projets perso. J'en développe tous les 4 matins.
Et
comme je sous-dois le jury tranquille, je sais que j'ai mes entrées à chaque fois. Dès que je fais la pub pour un projet, c'est cool.
Tu viendras. Voilà, tu mettras tes petits projets avant l'émission, en prévision. Du coup, voilà, juste avant de passer à notre invité du jour, c'est toi, Fabien. je précise.
Pas invité,
non, il est c'est déjà venu en tant qu'invité. Il nous assiste. C'est une position spéciale que tu as, Fabien. Ben non, mais franchement, c'est trop bien.
J'adore cette position. Genre, juste sidekick.
T'es
Laurent Baffie. Laurent Baffie.
Oh là là.
Même rêve
en même temps.
Tu es vraiment plus âgé que moi dans une réalité alternative.
C'est vraiment un problème. Juste avant de passer à ça, on fait un mini débrief sur une expérience pseudo-scientifique qu'on a faite dans la dernière émission. On a tenté de raid une chaîne Twitch pour essayer de le voir apparaître sur des graphes de Twitch.
Okay.
Je recontextualise. On avait un invité qui s'appelait Nicolas Bouchaïb Et en gros, lui, c'est son job, c'est de faire notamment de la data visualisation. Mmh. Du coup, c'est lui qui fait des graphes. Si t'en as vu passer sur Twitter, c'est lui. Des graphes trop stylés de Twitch. Tu vois des arborescences de viewers entre les gens. Et du coup, on a essayé avec vous, n'est-ce pas, de raid quelqu'un pour voir l'évolution que ça avait sur le graphe et essayer de voir, je sais pas moi, un gros trait, tu vois, qui se dessine avant et après le live. Malheureusement, on va vous montrer le résultat. Ça n'a pas fonctionné autant que ce qu'on voulait. Donc, on a raid un monsieur qui s'appelle Papa Blender. Et malheureusement, si tu montres la carte gamin, ça n'a pas fonctionné parce que soit il était pas dans le top 100, il est pas passé dans le top 100 de Twitch.
Ah oui, d'accord.
Et lui, il se trouve que ses ordis, il regarde seulement le top 100. Soit il y a peut-être d'autres raisons, c'est que on a découvert que le chat de Twitch, c'était du IRC.
Okay.
Encore une rêve de vieux. Mais IRC, en fait, c'est ce qui fait fonctionner les chats de Twitch. Et potentiellement, lors d'un raid, il n'y a pas de changement de canal. Bref, il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. Mais voilà, un peu déçu. Là, c'est nous et il se passe rien de spécial. Donc, t'as vu, ils sont beaux. Ouais.
Ah oui, non, mais c'est incroyable.
Ces traits, c'est quoi? C'est tous les traits qui raident?
Non, ça, c'est les viewers.
Ouais.
En gros, c'est les viewers qui se déplacent de live. Enfin, qui c'est les flux, on va dire, de viewers. Mais pour aussi, écoute, Benjamin, si tu es intéressé par ce sujet, le savais-tu que nous avons une chaîne YouTube? Qui répertorie les rediffusions. Exactement.
Mais je m'en vais la regarder de ce pas.
Moi, je regarde pas souvent les lives, mais les replays, oui.
Ouais. Ça me fait extrêmement plaisir et tu peux aller voir.
Extrêmement bon compagnon de salle de bain le matin. Alors, pas quand tu prends la douche, plutôt avant ou après. Ça dure à peu près le temps de ta toilette hors douche.
Bon timing.
Okay,
c'est une quinzaine de minutes. Vous pouvez aller vous abonner à cette chaîne et aller regarder des extraits, notamment sur ce qu'il a découvert sur la Zilane grâce à
Data. J'ai une vraie question sur tes replays. Tu les postes le matin ou pas?
Ça dépend, c'est Mathieu, le rédacteur en chef, qui s'en charge.
Ça a été posté ce matin aujourd'hui?
Je pense que ça a été posté ce matin.
Parce que je suis en train de me dire comment ça se fait que vraiment j'ai l'impression de les voir à chaque fois dans ma salle de bain le matin.
Je pense que c'est spécial le mercredi parce qu'on va faire un truc, c'est que la vidéo qu'on poste le mercredi matin, elle sert à publier le fait
qu'on y a le live
aujourd'hui,
le soir,
c'est mercredi, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme toi qui nous suivent sur YouTube, mais il y en a peu qui savent que c'est le mercredi à 20h en fait. On n'a pas encore réussi à créer l'automatisme chez les gens. Donc voilà, on va faire ça. Mercredi matin en particulier, tu seras le premier viewer dans ta salle de bain.
Je les regarde en plus. Enfin là, je passe pour le mauvais élève en mode t'as pas vu la Z-Line. En vrai, je les regarde quasiment tous. Et juste cette dernière semaine, j'étais très très occupé, du coup j'ai pas pu
rattraper,
mais je vais rattraper mon retard.
Il y a un Zilane, en gros c'est facile, tu peux pas rater.
En plus, ce qui est cool, c'est que je vais pas avoir à re-regarder les propres rediffs de celle-là.
Bah non, tu vas gagner du temps,
donc je peux regarder celle de la semaine. C'est trop bien, j'aime trop ma vie, j'aime trop ma vie.
C'est pour ça qu'il nous invite, pour nous faire gagner du temps sur les replays.
C'est méga gentil,
c'est juste pour ça.
Tu vas pouvoir te faire 3 diffs tranquilles toi le matin.
Voilà, on tenait du coup à vous faire un petit récapitulatif sur cette petite expérimentation peu fructueuse, mais on en fera d'autres à l'occasion. Voilà, on est les expérimentateurs de Twitch finalement.
J'adore.
Et maintenant, place à notre invité. Jingle.
Ça, cette photo, vous l'avez prise dans un matière grise.
C'est fort possible.
Vous avez le pull de Cyrus North.
Je crois qu'on a galéré à trouver cette photo.
Et que j'étais fatigué, donc on a mis un prompteur, donc j'avais gardé mes lunettes. Je reconnais tout.
Mais tu as l'air particulièrement intelligent dessus, c'est pour ça qu'on l'a.
C'est matière grise avec Thibaut InShape.
Ok.
Voilà.
Matière grise qui est ton format où tu rentres dans le cerveau des gens.
Non, ça c'était cerveau de trois petits points.
J'ai une connexion.
Ouais, c'était dans le cerveau de trois petits points. Matière grise, c'est plus l'enfant illégitime d'un inceste entre E égale M6 et C'est pas sorcier, mais où Brain Games serait venu quand même.
Ok.
Et vous faites des.
Dans la saison 2, j'aimerais injecter des maquettes. Ouais. Là, je viens de finir. J'ai fini les tournages de la saison 1. Je dis ça, mais il y a 4 épisodes qui sont pas encore diffs. Mais en gros, histoire très rapide du format. J'ai un format en tête depuis que j'ai lancé ma chaîne en 2016, mais ça coûte des sous. Mmh. Et en 2019, il y a une marque de téléphone qui me dit « Hey, partenariat !» Je fais « Ok, beaucoup de sous, et vous financez ça, s'il vous plaît ?» Ils ont fait « Ok !» Donc, j'ai fait l'épisode 1, j'ai fait « Ah, c'est trop stylé !» Du coup, j'ai envie d'en faire d'autres. Mais comme ça coûte très cher à produire, en fait, la vidéo, elle me coûte 3-4 000 euros à produire, elle rapporte 300-400, donc tu vois. Donc, je dis « Ok, on en fait un tous les deux mois !» mais en fait j'adore ce format, donc je fais je m'en fous maintenant, j'en fais tous les mois. Et il est toujours pas équilibré.
T'en as lancé plusieurs en fait, des formats un petit peu comme ça, produit, style.
Et il y en a que j'arrête aussi au bout de 7-10 épisodes, je vois que ça trouve pas son public et que c'est un délire perso et il y a pas d'ego, ma foi, on arrête quoi, tu vois.
Clairement, comment il s'appelle le Curious? Non, ça c'est le
Cabinet Curious, ouais. Cabinet c'est Curious. Nouveau, on a fait 3 épisodes mais on en a 7-8 décrits là.
Trop bien. Et c'est quoi le concept de celui-là?
Ben, je vais te pitcher parce que tu seras appelé pour un épisode, c'est sûr. En gros, Cabinet Curious, c'est je me place toujours en tant que viewer, en fait. Et je me dis, j'en ai un peu ras-le-fion des vidéos de 30-40 minutes. C'est, tu sais, avant, en 2016, 4-5 minutes, c'était un peu limite long, quoi, tu vois. Et là, aujourd'hui, c'est si ça fait moins de 20 minutes, t'as toujours un mec pour te dire, eh ben, Yank, c'était rapide.
Au travail.
Donc, j'ai fait, moi, je vais réécrire pourquoi je sais combien de mots on dit à la minute? Parce que j'ai cherché pour cette vidéo. Je me suis dit, je veux une vidéo qui fait 10 minutes max. Donc, en moyenne, on dit 200 mots par minute, etc. Génial. Donc, ça va être 2000 mots maximum. Et je m'y tiens grave. Et je voulais un format très... on dit des choses sur un sujet qui sont très factuelles. Je donne pas mon avis sur le sujet. Il n'y a pas d'hypothèse. Et ça peut tout toucher tout, en fait, société, l'histoire, en fait. Un truc, tu vois, j'ai fait l'île de la Rose, mais j'ai fait l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, ou tu vois, où justement les gens disent, mais ton avis, c'est pas le format pour la vie, tu vois ce que je veux dire?
On en fera un autre. Trop bien.
Et du coup, c'est toujours avec un invité. Ouais. J'ai fait ça durant le confinement. Du coup, l'invité peut filmer de chez lui.
Ok.
Donc, ça, c'est ok, on n'a pas besoin de se voir. Et moi, j'ai fait un petit studio et je veux qu'il y ait les parties invitées, moi en studio et moi en extérieur dans un lieu qui a un rapport avec ce truc. Ok. Et ça donne des vidéos de moins de 10 minutes. Et j'adore voilà, c'est ça, ouais, ce truc.
La prod est vraiment
propre.
Ah ouais, c'est un autre délire.
Franchement.
Et là, tu étais en featuring avec Xavier Dupont de Ligonnès?
Exact. Et on a trouvé qui c'est. En fait, je dévoile à la fin que c'est moi.
Ah,
c'est stylé. Et tu vois, ça, c'est la partie dans les boîtes Vincennes, très clairement.
Après, il y a la partie où il y a le. Et après. Le bac qui arrive.
Exactement. Et qui met les menottes. Et c'était Liv. Et donc, c'est toujours un invité avec qui a un rapport, tu vois. Ça, c'est Liv. C'est une meuf sur YouTube qui raconte toujours les histoires des serial killers, des trucs comme ça. Elle est pas masse connue. Elle est pas inconnue non plus. Mais du coup, tu sais, je cherche pas forcément la rosta qui va porter le projet. C'est vraiment. En fait, je te dis
comment raconter au mieux l'histoire.
Ouais, là j'ai des trucs un peu sur l'IT et tout, et je sais qu'il y a un épisode, je vais te le proposer parce que voilà, ça match, tu vois.
Carrément, bah trop hâte. Vous pouvez retrouver ça sur la chaîne de Fabien, bien entendu. T'as
de
aussi sorti
la DA là.
Pas mal, franchement,
le décor et tout, t'es méga
stylé. Et c'est Serb Turp qui nous fait les dessins aussi, tu vois, je fais bosser un illustrateur aussi dessus. Bah là, c'est le nouveau Matière Grise. En gros, Matière Grise commence à moins perdre d'argent. Et à se rentabiliser avec des OP et tout ça que je fais sur d'autres vidéos. Et du coup, j'ai dit, on réinjecte un format à risque. Donc, c'est lui que je produis maintenant. Quoi.
Ok, trop stylé. Trop stylé. Très bon move. Un autre move très stylé, c'était la sortie de ce bouquin. J'ai l'impression que tu sors plus de bouquins que je ne sors de vidéos, Fabien.
C'est possible, et c'est ça mon me déprime. Livre. Plus le magazine, plus le jeu, le coffret pour enfants, le kit du mentaliste.
Je sais pas.
Depuis 2017.
J'allais dire, je sais pas où tu trouves le temps, mais en fait, je sais, c'est dans son autre bouquin.
Votre temps est infini.
Exact. L'anti-guide de la manipulation. Est-ce que parce que c'est un anti-guide, du coup, tu nous apprends à nous hacker nous-mêmes?
Ouais, en gros, anti-guide, c'était aussi le truc pour juste un peu faire une rupture dans le raisonnement des gens. C'est-à-dire que si t'écris un livre sur la manipulation, tous ceux qui n'aiment pas ce mot vont pas le lire. Tous ceux qui ont les connotations négatives vont pas vouloir le prendre. Donc, je cherchais à faire un truc de rupture. Et si tu regardes bien, l'anti-guide est écrit 10 fois plus gros que le titre réel manipulation. Je voulais que tu dises anti-guide, c'est quoi un anti-guide? Moi-même, je sais pas ce que c'est un anti-guide. Mais je savais que ça allait percuter et que t'allais te dire, attends, pourquoi
c'est pas comme d'habitude, quoi.
Pourquoi c'est, et tu vois, c'est pas l'image avec les mains et les fils qui manipulent quelqu'un comme tu as toujours, c'est des couleurs pastel, c'est smooth.
Mais donc rien qu'avec ce titre, t'es déjà en train de manipuler les gens, en fait.
Ouais,
avec ce truc-là.
Exactement. En fait, le truc, tu sais, ça, c'est ta vignette YouTube. C'est-à-dire que tu peux avoir meilleur livre, si la personne elle le voit pas dans le rayon, qu'elle prend pas dans les mains juste pour regarder les 3 premières pages, c'est que t'as pas fait le bon taf, quoi, tu vois. Et en gros, oui, c'est, on va dire, le plus synthétique possible, tu te manipules à longueur de journée toi-même sans t'en rendre compte. Donc c'est comment unlock ça. Tu manipules les autres, mais pas de la bonne manière, toute la journée sans t'en rendre compte. Donc que tu le veuilles ou non, t'es un manipulateur non éthique, malhonnête souvent. Donc c'est pour unlock ça. Et le dernier truc, c'est après comment détecter les autres manipulations que toi tu reçois, comment faire pour les casser aussi.
En gros, maîtriser l'outil manipulation en tant que tel.
Et du coup, les moments où tu veux vraiment manipuler, comment tu peux le faire de manière éthique et honnêtement. Et en vrai, ça se résume en trois mots. Hein. Je peux te manipuler honnêtement si je te déclare mes intentions.
Oui.
C'est-à-dire que là, par exemple, je t'ai déjà dit j'aimerais faire une vidéo avec toi. Donc, en gros, je t'ai déclaré mon intention. Oui. Ensuite, si à aucun moment je te trompe sur les données, soit en cachant, soit en les changeant. Donc, je te dis, par exemple, tu n'auras pas besoin de venir, tu le feras chez toi. C'est vrai, tu vois, il n'y a pas un truc en plus derrière, etc. Machin. Et la troisième chose, c'est tu respectes le libre arbitre. C'est-à-dire que si tu me dis non, je veux pas la faire la vidéo ou non sans le justifier, je dois l'accueillir, et ça c'est un travail perso, avec autant de bienveillance que ouais. si tu m'avais dit oui. Sinon c'est pas une demande, c'est un ordre.
Il y a un côté accord Toltec un peu
ouais, c'est mélangé. Vrai, ouais, ouais, ne pas en faire une affaire personnelle ouais. si tu me dis non, ouais, exact. Ouais.
Est-ce que tu mentionnes qu'on fait tous dans notre vie tous les jours des manipulations
ouais.
potentiellement pas éthiques.
Ouais.
Est-ce que tu as des exemples concrets de trucs peut-être qu'on ferait sans s'en rendre compte, tu
vois ? J'ai un double exemple.
Ouais.
Dans 90% des cas, quand on utilise un chiffre dans la conversation, c'est pour manipuler alors qu'on n'a aucune source derrière. J'ai pas de source à ce 90%. Mais ça nous a paru quand même très sérieux dans le fond. Et pourtant,
il y a une étude américaine,
tu vois. Et souvent, on dit ça, tu sais, on dit attends, franchement, les trois quarts des gens, ils en ont ras le cul de mettre le masque quand ils vont à tel ouais. endroit, tu vois. Mais les trois quarts, ils sortent de ton fion, tu le sais, ouais. tu vois. La personne en face le sait. Et pourtant, sur le cerveau, ça a un impact, etc. Donc ça, c'est une micro-manipulation, ouais. mais c'est pour te dire que ça va quand même dans tous les recoins tout le temps.
Ouais, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté peut-être pratique en fait, où par exemple sur ton
exemple, il y a un côté feignant du cerveau.
Peut-être.
En fait, c'est feignant parce que tu n'as pas envie d'aller chercher les vraies données et les vrais arguments et tu utilises les biais cognitifs, ce qui a fait évoluer l'humanité. On a survécu grâce aux biais cognitifs, c'est des raccourcis de raisonnement ouais. pour pas trop faire travailler le cerveau et surtout pas qu'il surchauffe. Et on l'utilise aujourd'hui, mais dans le fond, on sait que c'est un peu feignant, tu vois.
Ouais.
Et de la même manière
en fait,
que...
Ça se trouve, tu peux comprendre, oui, mais en fait, c'est dans la bulle de la personne qui est en
train
de parler.
Exactement. Dans mon expérience, j'ai l'impression que c'est juste de la nuance à mettre.
Ouais. Mais est-ce que parfois on va pas passer notre temps, tu vois, à mettre aussi des interjections partout, tu vois.
Moi, je le fais.
Ouais.
Et ça me pose pas de problème de dire je sais pas ou aussi au lieu de mettre de la nuance, souvent au lieu de mettre de la nuance, il me semble que je parle que de moi.
Ouais.
Et je vais dire moi j'en ai marre de mettre mon masque oui. à tel endroit à chaque fois plutôt que d'essayer de faire un appel ouais. au groupe et au nombre pour te faire croire que c'est moi qui ai raison et qu'il faut que tu tranches de mon avis
dans le cas où t'as pas de la donnée derrière
ouais,
pour le justifier
exactement tu vois mais dans les manipulations très courantes et vraiment qu'on fait tous et même moi je le fais et je me vois parfois et des fois je me vois sûrement pas c'est d'utiliser la culpabilité de l'autre tu vois.
Ça m'intrigue trop parce que c'est vrai que d'un coup j'ai l'impression d'être un flibustier et un enfant de première. Mais non, mais j'espère pas. Là, tu dis utiliser la culpabilité d'un autre et je me dis, grand Dieu, j'espère être à l'abri de ça. Mais ouais. Vas-y, donne-moi un exemple.
Mais non, mais l'exemple concret, c'est je déménage demain. Si tu peux passer pour donner un coup de main, voilà. Si tu peux pas, c'est pas grave. Moi, j'ai le dos pété. Par contre, putain, je vais prendre toute la journée. Mais allez, s'il te plaît, tu veux pas m'aider, s'il te plaît. Même ce truc-là, c'est de la manipulation de faire. Allez, s'il te plaît, tu veux pas venir, allez.
Je te jure, je fais pas un truc comme ça à quelqu'un. Ouais. Je n'utilise pas ce genre de profil.
Moi, il a fait ça pour que je vienne aujourd'hui.
Ouais, bah, sinon
ça marche. Non, mais tu vois, là, je fais vraiment des caricatures ouais. pour ouais. qu'on les reconnaisse. Mais à chaque fois que tu fais marcher, par exemple, un peu au nom de l'amitié ou de choses comme ça, alors que tu sais que c'est pas l'argument
ça,
clé,
je suis
tu
d'accord
vois.
Que c'est potentiellement un des trucs les plus courants ouais. de la Terre. Alors, moi, mon exemple, c'est peut-être dans les jeunes générations, tu vois. L'exemple typique, c'est soirée étudiante. Potentiellement, si t'as un truc important, etc., tu dois travailler, etc. Vous savez, vous êtes potentiellement dans ce cas-là, mais les groupes d'amis, ça peut être
mais non,
méga lourd. Tu vois,
très compliqué.
Tu vas pas nous faire ça. T'es quand même notre pote, tu vois. Tu vas pas rentrer. Il est que inséré une heure.
C'est ça.
Tu vois, c'est...
Et si tu réfléchis à l'émotion que t'as dans le bide à ce moment-là, ouais. c'est bien de la culpabilité. Tu n'arrives pas à refuser parce que tu te sens mal de refuser. Donc même si c'était pas leur intention du tout de te faire culpabiliser et que c'était plus en mode fun, allez, reste, bah mine de rien, t'as fait naître cette émotion-là. Et blague à part, les émotions, c'est hyper important. On parle souvent des cinq sens, on en a plein d'autres. Et on parle aussi beaucoup des sens physiques. Genre ça, c'est la nociception. Si je me pince, je ressens la douleur, mon cerveau, il le dit, parce qu'il y a une agression de mon corps et il faut que je règle le problème si je veux rester en vie potentiellement, tu vois. Nociception. Ben, il y a une perception qui a, je trouve, on pourrait dire que ça fait partie de nos sens. C'est les émotions, en fait. Il y a des fois, tu vas me proposer un truc. J'ai du mal à dire non. je vois pas pourquoi je dirais pas non, donc je te dis oui. Mais au fond de moi, putain, ça m'emmerde et je sais pas pourquoi je me sens pas bien de devoir faire ce truc avec toi. Mais j'ai pas encore mis des mots dessus. Bah en fait, pour moi, c'est un sens. C'est tes émotions, elles te signalent que il y a un truc qui est pas bon dans le raisonnement et tu l'as pas encore conscientisé, mais ça fait yesh.
Dans le chat, je vois pour la boisson, c'est pareil.
Ouais.
C'est hyper courant aussi, en vrai.
Tu vois, regarde, pour la boisson, moi, je bois énormément de bière à 0%, ouais. Bière sans alcool. Parce que j'adore la bière et je sais pas en boire une. Donc je peux en boire trois facile, mais ou zéro, mais une c'est un peu.
Alors j'avoue là, va falloir me convaincre pour l'histoire que la bière à 0% c'est toujours de la bière.
Eh ben,
je suis peut-être un vieux con.
Non mais il y a des années, les bières sans alcool c'était vraiment dégueulasse, c'était sucré, c'était les panachés et tout. Et il y a pas si longtemps, j'étais fatigué, et je voulais juste boire un coup et tout, donc je dis ok, j'achète. Putain, maintenant ils te font des bières, mais pas forcément la Heineken ou les 16, tu vois, des bières un peu chambées sans alcool et tout, et elles sont très bonnes. Et je me suis dit mais en fait c'est trop cool. En fait il y a, je viens chercher la fraîcheur et le goût à ce moment-là parce que je rentre le soir, je suis tout seul, je suis crevé, j'ai pas envie de m'en mettre une, tu vois ce que je veux dire.
Il y a un objectif différent.
Et en fait, plutôt cool qu'il y ait pas d'alcool parce que j'ai pas envie de machin. Et donc si je reçois quelqu'un qui passe à la maison et que je sors ça, t'es sûr que je me prends une vanne directe qui culpabilise.
Mais attends, j'ai pas hésité, hein, je te l'ai envoyé.
Et on va trouver.
Je suis un putain de manipulateur. En
non, même pas, parce que c'était pas tant une vanne culpabilisante. C'est pas. Moi, excuse-moi, je bois des boissons d'hommes en fait. Tu vois, ça, c'est un truc culpabilisant.
Ouais, d'accord.
Tu remets en cause la virilité de l'autre parce qu'il boit une bière sans alcool, tu vois. C'est d'autres soucis. Mais ça, c'est encore un autre truc parce que l'alcool, comme la cigarette, ça a été ancré dans notre société comme des trucs masculins, virils, etc. Ouais. Même l'État en a fait partie. Je veux dire, à l'époque, quand même, il n'y a pas si longtemps, on fumait au JT, on fumait dans les trains, les avions. Et à l'armée, c'est l'État qui t'offrait tes cartouches de clopes de la marque d'État des cigarettes.
Ouais, bien sûr.
Et du jour au lendemain, quand l'État a reviré de situation, elle s'est un peu dédouanée du on a participé à vraiment injecter le côté si t'es un bonhomme, comme dans les films américains, fume la bonne cigarette française, quoi, tiens.
Il y avait aussi de la publicité, du coup, qui n'avait pas du tout sur la virilité, mais de la publicité pour montrer que c'était un symbole d'indépendance en réalité de
c'est
fumer.
Ça.
Et où ils mettent en scène beaucoup, du coup, plus des femmes que des hommes.
Oui, ça, c'est quand ils ont voulu toucher la nouvelle population des femmes.
Ouais,
mais d'ailleurs, dans la publicité, tu le vois, je détaille dans le bouquin une publicité pour Bob, pas pour Bob Sinclair, mais moi je dis ça, pour un casque audio, je crois que c'est un Schneider. Et en fait, la pub, donc, elle est immense, évidemment. T'as Bob Sinclair dessus qui est torse nu, évidemment, c'est quand même un casque audio, avec une meuf qui est superbe et qui est à moitié torse nu elle aussi, qui est vraiment. Le long du corps de Bob et elle a vraiment des gouttes de sueur qui coulent de partout, mais évidemment c'est quand même pour un casque audio c'est très très important tout ça. Lui a son casque audio qui n'est pas branché parce que finalement peut-être et il y a aucune spé sur le casque et le nom du casque j'ai calculé il prend 8% de la publicité, c'est ce qui a rapport avec le casque prend 8% de la publicité. Donc on est que sur quelle projection tu peux te faire et quel code on envoie et tu vois et donc le très basique truc de virilité etc, t'es là parce en que, vrai tu vois
dans les exemples que tu donnais, ce que je trouve intéressant c'est que il y en a certains, enfin les plus évidents, bon, tu disais tu fais des caricatures, mais il y en a certains tu dis oui bon bah du coup en fait le conseil c'est ne soyez pas des connards, tu vois, ça bon tu vois, je l'avais, mais ce qui est intéressant c'est dans les cas où potentiellement tu t'en rends pas compte, soit tu fais une manipulation ou soit tu t'es en train de te faire manipuler et t'as pas de warning clair.
Non, mais ça c'est, mais je le raconte aussi dans le bouquin, que il y a une fois moi c'était au téléphone avec un mec pour un job où je savais pas ce qui se passait, tu vois. Je dis pas que j'étais en train d'être manipulé à ce moment-là, j'en avais pas conscience ou quoi, mais je sentais que au moment où il me posait la question, je me dis juste mais j'ai pas le temps de réfléchir. J'ai raccroché et après je l'ai rappelé, j'ai fait croire qu'en fait il y avait eu un problème de communication.
Dommage.
Et en prenant 5-10 minutes comme ça, je me suis dit, ah ouais. En fait, non, ça va pas, sa proposition, elle craint, etc., machin, mais effectivement, il y a des fois, tu te fais manipuler, tu te rends pas compte, c'est juste, les choses vont vite, un peu trop vite. Et je me suis aperçu que dans la vie courante, on peut toujours reprendre du temps. Parce qu'on t'empêchera pas d'aller aux toilettes, tu vois, ou d'aller passer un coup de fil, ou de raccrocher, de faire semblant que t'as un problème de communication, tu vois ce que je veux dire, de
faire rentrer là. C'est ça qui est piégeux. C'est que, mais
tu te rends compte que t'as pas le temps de réfléchir.
Ouais, t'as un moment, t'as la nausée, tu fais, oh, il y a un truc qui va pas là.
En fait, tu te dis pas forcément il a des mauvaises intentions, mais t'as au moins le signal de est-ce que j'ai eu le temps de réfléchir avant de te répondre? Non, tu vois.
Et c'est ce qui est intéressant, c'est que ça va faire, on va rediscuter tout à l'heure, mais ça fait un pont aussi avec des notions de cybersécurité.
Absolument.
Et de manipulation, etc. Puisque t'as certains critères qui font qu'une attaque fonctionne bien, c'est par exemple la notion d'urgence.
Bah ouais. Mais souviens-toi la vidéo qu'on a fait ensemble pour ta chaîne.
Exactement, j'allais en parler. Ouais. Bah, est-ce que tu peux nous rappeler quel était le concept?
Bah, en gros, toi, tu m'appelles pour me dire, ah, j'ai un projet de vidéo, il est marrant et tout. Et tu viens et tu me dis, en fait, l'idée, c'est de choper les réponses aux questions secrètes d'une pote à moi. De montrer que, avec un minimum de données, on peut choper les réponses aux questions secrètes. Tu sais que quand tu fais, j'ai oublié mon mot de passe, etc. Donc, tu me files la base sur ta pote. C'est-à-dire, nom, prénom, numéro de téléphone et opérateur. C'est des trucs qu'on pourrait choper facilement en ligne. Et du coup, on l'appelle, enfin je l'appelle, et moi je prends l'angle, donc j'avais les cartes blanches, tu m'as dit tu fais comme tu veux et tout. Je prends l'angle d'être l'opérateur, tu vois, un mec qui travaille pour son opérateur, donc salut, vous êtes bien machine-machine, du numéro nanana, je suis machin de chez SFR, et donc j'ai une super offre pour vous. Donc là, je lui propose une offre en béton, tu vois, qu'elle a du mal à refuser. Une fois qu'elle est OK là-dessus, j'ai dit, ben moi, il y a pas de souci. Donc, si vous voulez, on peut l'enclencher à partir du mois prochain et tout. Donc, elle fait OK. Je dis, ben, du coup, on a deux solutions pour ça. Soit je vous envoie un formulaire par mail, il faudra l'imprimer, le remplir, etc. et nous l'envoyer par la poste avant, par contre, lundi prochain, sinon l'offre, elle tient pas. Ou sinon, on le fait en ligne maintenant. Et du coup, elle réfléchit, elle hésite, je raccourcis, fait non, en ligne maintenant,
je réponds
parce que,
bien sûr,
pas le time, et là,
le plus court chemin,
et là, je lui ai inversé en plus le truc, qui est plutôt malin en psychologie, inversé, mais ça, c'est mon boulot, j'ai fait, ok, mais maintenant, prouve-moi ton identité avant que je te colle l'offre.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Et du coup, à partir du moment où c'est elle qui doit me convaincre de son identité, déjà, il n'y a plus de doute sur le fait que moi, je suis qui je dis être, tu vois. Et donc, je dis, OK, pour confirmer votre identité et donc enclencher le truc, j'ai besoin de deux questions basiques. C'est vos questions de sécurité que vous avez rentrées vous-même sur le site à l'époque. Je suis même pas persuadé qu'elle a rentré quoi que ce soit sur SFR. Ouais.
Les gens,
on a tellement la légende.
Sûr.
Et donc, je crois qu'on avait fait, donnez-moi le nom de l'école primaire et le nom de jeune fille de votre mère. Et puis bon, elle a tout balancé.
En fait,
on a fait 5 minutes.
Le truc, c'est qu'aussi, t'aurais, à ce moment-là, tu pouvais demander ce que tu voulais. Quoi.
Ah oui, ouais. Bah, en fait, on pouvait être en parallèle sur le site où on voulait récupérer son mot de passe et on était à l'étape des questions de sécurité. Je lui donnais les deux trucs, je tapais en temps réel, c'était réglé.
À ce moment-là, de l'avancer dans la manipulation d'une personne, qu'est-ce qui peut briser le charme? Quelques faux pas t'aurais pu faire d'un conversation avec cette personne pour que là, elle se reprenne et se dise, mais attends, mais
il se passe un truc bizarre
de m'arnaquer. Là.
Là, en vrai, c'était très compliqué pour elle. Le seul truc qui, en fait, elle l'a pas eu, elle l'a pas fait dès le départ. C'est à partir du moment où je veux toucher à des données personnelles à elle, elle doit vérifier mon identité. Et elle aurait presque dû le faire dès le départ. Moi, je l'ai fait par exemple, et ça c'est vrai, il y a quelques années, c'est un mec qui se faisait passer pour EDF. En vrai, c'est des revendeurs d'électricité. Ouais. Ils ont des coms, ils te changent de fournisseur.
Il y a tellement des coms.
Et donc, ils se font passer pour
les vieux qui se font arnaquer, ça me fend le cœur.
Quand tu crées une boîte, des trucs comme ça.
Et du coup, le mec, je pense en plus que c'est vraiment EDF au départ. Donc, c'est, tu vois, parce que j'avais pas encore trop dispatché mon numéro de téléphone et tout. Et du coup, je dis, d'accord, ok, cool. On peut voir ça, est-ce que je peux avoir mon numéro de client? Puis il me fait, c'est-à-dire votre numéro de client? Je fais, juste avant d'avancer, vous me dites mon numéro de client, comme ça je vérifie que c'est bien vous et que c'est pas n'importe qui. Et en fait, là, il peut pas me le donner. Et donc il insiste, il s'énerve, tu vois. Et je dis, vous me rappelez quand vous avez mon numéro de client sous la main et je réponds à toutes vos questions, il n'y a pas de problème.
Ouais, donc, t'as eu le déclic, quoi.
Et là, ça aurait été la seule clé qu'elle aurait pu faire, c'est dès le départ, en fait, ne pas attendre et juste faites-vous confirmer qu'au téléphone, c'est bien la personne qui prétend être qui elle prétend être.
Et surtout, je pense qu'il y a un bon conseil à donner qui sera confirmé par la troisième invité quand il nous rejoindra. Mais c'est surtout quand au moment où vous êtes sollicité. C'est-à-dire que si c'est vous qui faites la démarche de d'aller à votre banque ou de décrocher le téléphone,
c'est autre chose.
Vous allez pas, voilà, exactement. Ouais. Il y a, vous allez pas.
Si
vous
t'as rien demandé. Il y a un appel qui arrive. C'est
exactement. C'est dès que c'est de l'entrant, dès que c'est un truc qui vient vers toi, alors que t'as rien demandé à personne, que ce soit un email, un appel au téléphone, même si c'est hyper urgent, qu'on vous dit que vous avez été piraté, etc.
Et en plus, toi et moi, on avait fait. Ça me revient maintenant. Le pire truc qui sont faits en temps normal d'ailleurs par des ordis. C'est-à-dire, on s'était mis en numéro privé, on l'avait appelé 10 minutes avant pour vérifier qu'elle décrochait.
Nickel.
Tu vois, donc même ça, c'est déjà un indice. Grave. Tu sais, si ton téléphone il sonne juste avant ce genre d'appel, c'est pas bon. Ou alors, si hier il a sonné à la même heure et que quand t'as décroché, ça a pas parlé, c'est pas bon non plus. C'est juste un logiciel qui vérifie à quelle heure tu décroches et t'es disponible. Tu vois.
Ouais. En tout cas, c'est bien de donner les
oui, c'est ça. C'est
le rappel là, de faire attention à ça.
C'est,
et tout,
c'est tout bête, hein. Mais c'est de se dire bon.
Mais moi, ta vidéo, enfin notre vidéo, elle m'a traumatisé. C'était si simple. Ouais. En 5 minutes, 3 minutes, c'était réglé. J'avais nom, prénom, numéro de tel. Basta. Parce que je crois qu'on avait que le numéro de tel et on a tapé pour voir quel fournisseur d'accès c'était. On l'a trouvé en 2 secondes, quoi, tu vois. C'est trop simple.
C'était
beaucoup trop simple.
Simplicité enfantine. Et honnêtement, moi, j'avais trop aimé l'expérience. Ouais. C'est-à-dire que je me souviens, on avait travaillé un peu ensemble sur les techniques et tout. Et d'ailleurs, j'avais même pas le stress de m'impliquer. Genre, je donnais à Fabien, allez, maintenant.
Je me souviens, après, on était assez incroyable. Ouais. On a tout eu. En fait, c'est là aussi que tu te rends compte que dans le cerveau, une fois que ça a lâché et que la porte est ouverte, j'aurais pu lui demander un milliard de trucs, en fait. Ouais. Parce que pour une espèce de cohérence personnelle et pour pas s'en vouloir elle-même, elle remet pas en question le truc, sinon elle va commencer à s'en vouloir aussi de,
vois.
Tu vois, c'est un peu comme au poker
en fait.
Ouais.
Quoi, en fait, elle est dans le déni.
Exactement, c'est une sorte de déni, tu vois.
Ce que ne dit pas Mikot, c'est qu'après il a continué ce truc, il a tellement kiffé la première fois que du coup il a continué.
Mais
quand
il a payé ce studio d'après
avec tous ses potes, il a récupéré tous les comptes EDF et tout, et du coup il ne paye plus rien maintenant.
C'est comme ça qu'on fonctionne ici. Il t'arrive de piéger, mon cher Fabien, les gens avec qui tu travailles.
Oui, c'est vrai. Ah, j'ai fait ça avec Loïc.
Est-ce que c'est pas... Et comment on fait pour vivre... Comment on fait pour travailler avec toi, genre?
Non, mais ça va, c'est cool. Déjà, Loïc, pour cette vidéo...
Est-ce que maintenant, il est sur ses gardes, il est trop maintenant?
Non, non, et puis il a du caractère. Et puis... mais il faut savoir que pour la vidéo dont tu parles, à l'époque, un mois ou trois semaines avant, je lui demande... En fait, je lui dis, hey, un jour, pour une vidéo, j'aimerais bien faire un truc sur toi, psychologique, etc. Un peu, tu vois, un peu tordu. Parce que justement, j'aurais aimé faire une vidéo d'exemple là-dessus, mais je vais pas aller voir quelqu'un dans la rue, pas lui dire et le machin. Donc, est-ce que c'est OK pour toi que je fasse ça? Et je filme et tout. Et je lui dis, par contre, comme c'est toi qui vas monter la vidéo, elle sortira que si tu veux qu'elle sorte. Tu vois, s'il y a un truc humiliant ou que tu dis je passe trop pour un con, on la publie pas et tout. Donc, il m'avait donné son go, en fait, surtout. Et on a fait ça et c'était assez marrant, en fait. En gros, c'était... Parce qu'on devait acheter une nouvelle caméra, parce que lui, il utilisait la sienne depuis le départ. Et comme c'était une caméra qu'il avait avec un pote à lui, ça commençait à être problématique et tout. Et moi, j'ai créé un nouveau problème et encore un nouveau problème. Et après, j'étais son ami, je proposais des solutions pour son problème. Et puis à la fin, j'ai trouvé la solution ultime de on change rien. Et du coup, ça l'a tellement libéré que c'était OK, quoi, tu vois. Mais en gros, si tu regardes la vidéo, tu sens qu'avec ça, quand même, j'aurais perdu un truc chez lui. J'aurais perdu des points de confiance. Parce qu'il ne saurait pas quand, ni où, ni comment. Mais avec le temps, pas dans l'instant, mais avec le temps, il se serait dit « Non, mais il m'a enfumé. » Tu vois. Et du coup, tu perds quelque chose quand même, qui est la confiance d'un pote, en fait, ou de quelqu'un avec qui tu travailles ou quoi.
D'accord.
Et ça se récupère
donc,
pas dans le
temps. Entre une vidéo et la confiance des potes, tu sélectionnes plutôt la confiance des potes. Je suis assez déçu, honnêtement.
Ou la vidéo. Faut voir.
Après, une vidéo à 10 millions de vues.
Ouais, faut voir, quoi, tu vois.
Ça dépend des chiffres, encore une fois.
Non, mais c'est assez intéressant. Mais personne se met filmé au bureau. Bah, en même temps, au bureau, toutes les personnes, on a un pouvoir très horizontal. C'est-à-dire que moi, je suis employé avec le reste du staff.
Ouais.
Et j'ai juste le final cut sur les décisions stratégiques ou artistiques, quoi, tu vois.
Ouais.
Mais ils sont très, très autonomes. J'ai assez peu de.
Okay.
Je sais pas à quelle
heure. Est-ce que tu viens pas un peu de décrire une hiérarchie, là? Est-ce que tu viens pas un peu de décrire une forme de hiérarchie?
Non,
c'est absolue. Moi c'est pas mauvais, toute hiérarchie n'est pas mauvaise.
Non, c'est vraiment un pouvoir horizontal, c'est-à-dire que personne ne doit des comptes à personne et personne n'est responsable de personne. Par contre, on travaille tous autour d'un projet. Et ce projet-là porte mon nom parce que c'est comme ça, j'ai pas pensé à prendre un pseudo.
Mais
en gros, ce projet-là, par contre, j'en assure les décisions de stratégie artistique qui sont intimement liées parce que ça reste mon bébé. Mais par exemple, Cabinet Curieux est un super exemple, ou Matière Grise aussi. J'ai le concept sur le papier, je fais tout le concept et tout, et c'est Loïc qui a imaginé tout le décorum, toute la réelle qu'on pouvait faire autour de ça, etc. Et je crois vraiment rien avoir touché. J'ai sûrement émis des avis, mais comme Fanny, Denis ou Jérémy.
Trop bien. Mais c'est là où les gens s'amusent aussi.
Ouais.
En fait.
Et pour l'orga, c'est Jérémy qui a géré, et c'est Fanny qui a fait en sorte de fluidifier autre chose. Et en vrai,
comme ça doit être.
Ouais, comme ça doit être. Ouais, ouais.
Et puis c'est comme ça que les gens s'amusent et qu'ils ont les meilleures idées, etc.
Et tu vois, et même pour les horaires, il n'y a pas d'horaire réel chez moi. Tu vois, on est en 35 heures, mais après, c'est chacun fait son tour. Et en fait, je crois vraiment que si tu laisses beaucoup de liberté. Et
ça dépend peut-être aussi des personnalités des gens. Moi, je sais que par exemple, d'un point de vue très personnel, tu vois, j'ai besoin de, même si je me le fais tout seul ou je trouve des moyens de que d'autres gens me le fassent, mais moi, je sais que j'ai besoin d'être un petit peu cadré, tu vois. Parce que sinon,
il y a un truc qui ressort au bureau, etc. de la part de pas mal de monde qui travaille avec moi, c'est que il y a un complexe de productivité vis-à-vis de moi.
Okay.
Pour de vrai, mais pour deux raisons, hein. Parce que d'une, et c'est pas la vraie première raison, je suis très organisé, et de deux, on parle de mes bébés. Évidemment que je suis 10 fois plus motivé que n'importe qui, mais du coup, comme j'avance beaucoup et vite, il y a une espèce de truc de, je pense que si t'as envie de glander et que tu vois ce qui vient d'être généré de mon côté, tu te dis non, mais allez, je m'y mets aussi, quoi, tu vois. Donc je pense qu'il y a aussi une influence naturelle là pour le coup.
On va dire que tu me motives par exemple.
Ouais.
Alors c'est plus une sorte de motivation qu'un complexe finalement. Enfin,
oui, non, mais au final, oui,
peur du complexe, ils se motivent, quoi, mais ça reste, ils sont super motivés de te voir faire comme ça. Ouais.
Et comme j'agis pas du tout en tant que patron, mais plus en tant qu'employé, tu vois, en train de taffer, de faire les trucs, moi aussi, des trucs cool comme les trucs les plus chiants du monde, bah du coup, tu te dis pas, putain, le mec, il arrive, il se met les pieds sur la table et il me dit, fais ci, fais ça, fais ça. En gros, je vais dire, est-ce que ça a été fait? Si ça n'a pas été fait, ok, je m'y colle, tu vois, c'est plus ça, quoi, tu vois.
Tu parles aussi régulièrement de biais cognitif.
Oui, c'est vrai.
Un terme qui commence à être assez grand public, peut-être même galvaudé parfois.
Oui, aussi.
Est-ce que tu as des... J'aime bien faire des dropper des mots de Michel Vaquer. Est-ce que tu vois ce que c'est, les biais cognitifs?
Un biais cognitif, c'est genre comme un biais de 5 ou un biais de 10.
Ouais, c'est ça, mais c'est un biais cognitif.
C'est que...
Voilà. Moi, c'est la meilleure définition. J'ai regardé pour toujours.
J'achète mon pain avec ça, moi.
Biais cognitif. Très sérieusement, est-ce que tu as entendu l'expression biais cognitif?
Oui, le biais cognitif, à mon avis,
peut-être un exemple d'un endroit où tu l'as vu passer ou d'un biais?
Non, mais j'ai la définition officielle. J'ai la définition officielle, c'est lorsque ton cerveau va interpréter un truc comme il devrait, comme c'est pas le truc. Okay. Hop, encore un truc, c'est éclaté sur le mur.
En vrai, c'était pas mal.
Mais j'aurais pu faire un peu mieux que truc et truc, en gros. Mais c'est quand ton cerveau, en fait, interprète mal une chose.
Oui, c'est ça. En fait, c'est comme son nom l'indique, ça biaise quelque chose. Donc, t'as un truc qui doit aller comme ça et d'un coup, il dévie. Mm-hmm. Et donc, biais cognitif, parce que c'est avec tous tes trucs de cognition qui font ton raisonnement. Donc, c'est ton raisonnement qui, à un moment donné, devrait atteindre ce point-là, mais va ici pour une petite connerie.
Parce que ça l'arrange ou pour toute autre raison.
Alors, en vrai, on pense vraiment, c'est une théorie plutôt consensus, scientifiquement parlant, que c'est ce qui a permis, comme je te disais tout à l'heure, à l'humanité d'exister et de rester. En gros, c'était plus simple d'aller très vite, par exemple. T'étais à l'époque
préhistorique. On peut pas traiter toutes les données.
Ouais, exactement. Tu mangeais un truc rouge. T'étais malade toute la nuit. Le lendemain, tu te disais, tous les trucs rouges là qui poussent dans les arbres, plus jamais. Mais alors, peut-être qu'il y en a des bons dans les arbres, tu vois. Ben, c'est ce même biais cognitif qui fait aujourd'hui qu'il y a du racisme parce qu'un mec a une embrouille avec un rebeu. Il se dit, les rebeux, nanana. Tu vois, c'est aussi con comme raisonnement. Tu généralises tout. Donc, les biais cognitifs, ils généralisent et ils font en sorte que ta décision soit rapide.
D'accord.
Avec le moins de réflexion possible. Parce que il y a très longtemps, c'était que de la survie. Et aujourd'hui, on vit dans le confort, on n'a plus trop de problèmes de danger, donc on n'a plus besoin de ça. Mais c'est notre mode de fonctionnement. Ouais. Donc on va généraliser des choses, on va aller vite, etc. Par exemple, on va éviter d'aller chercher des données justement, parce que c'est chiant. Du coup, tu as un biais, une erreur fondamentale d'attribution, et vous allez reconnaître les trucs. En général, on se dit, si quelqu'un a raté quelque chose, c'est de sa faute. C'est pour des raisons qui lui sont internes. Il a raté son bac, il n'a pas assez révisé. Par contre, s'il a réussi quelque chose, c'est plutôt pour des raisons externes. Ouais, il a réussi son bac, il a une mention, mais les sujets cette année, ils ont été donnés. Ouais. Et c'est l'inverse sur toi. si toi tu rates quelque chose, c'est plutôt pour les, tu vois, mon livre il a pas marché, ouais, mais tu vois, il y avait le Covid,
ouais, c'était pas facile. Ça c'est typique d'une sortie de vidéo YouTube,
tu vois,
ça.
Exactement.
Ah, mais l'algorithme aujourd'hui, il y avait pas, il y avait pas les vents favorables.
Parce que l'algo n'était pas aligné. Qui déconne, hein.
Et oui, par contre, ça. Si ça cartonne, tu vas trouver des raisons internes. Ouais, mais là j'avais le bon sujet, t'as vu ma vignette, elle a cartonné, là, je pense que j'ai trouvé le bon titre. Donc tout ça, en fait, ça t'empêche de bien raisonner, en fait, parce que si tu te fies à ça, c'est un problème, tu vois. Les biais cognitifs font aussi que les sophismes existent. Un sophisme, c'est comme un syllogisme. Un syllogisme, c'est en langage vous, ça fait si A égale B, si B égale C, A égale C. C'est logique. Eh ben, tu peux le transformer avec des biais cognitifs. Et le pire, c'est que ça paraît logique. Si je te dis
une prémisse fausse ou
un chômeur ne travaille pas, un feignant ne travaille pas, un chômeur c'est un feignant. Eh ben, ça ressemble à de la logique, mais les prémices sont biaisées, effectivement, et c'est pas du tout un syllogisme. Donc il y a tout ça aussi qui fait que voilà, tout est resté et ça va trop vite. Alors là, je vous en présente des très classiques, mais plus profondément, sans manipulation, ça te fait prendre des vraies mauvaises décisions dans ta vie. Vous connaissez le biais du survivant ? J'adore ce biais cognitif.
Enfin, pardon.
Tu connais ?
Oui.
Ok, tu connais pas ? Je peux en parler vite fait ?
Vas-y,
je t'en
prie.
Ok. Biais du survivant. En gros, il y a, durant la Seconde Guerre mondiale, les Américains voient les avions qui reviennent jusqu'à eux. Et il se dit, c'est pas possible.
Je connais.
Ah ouais, voilà.
Bon, j'y ai pensé aujourd'hui, je sais pas.
C'est trop drôle. C'est ceux qui connaissent pas encore.
Bon, alors, en très rapide, les avions reviennent, mais pas assez d'avions. Il y a énormément d'avions qui ne reviennent pas à la base. Donc, ils se disent, c'est un double problème. Premièrement, on perd énormément d'argent. Deuxièmement, bon, il y a des gars qui sont morts. Mais quoi qu'il arrive, il faut qu'on renforce les avions, les bombardiers, pour qu'ils puissent rentrer à la base. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On étudie tous les trous de balles des avions. Il y a des jeux de mots très faciles avec ce que je viens de dire. Donc on étudie tous les trous de balles sur ces avions et on va renforcer là où ils prennent des balles et les avions repartent et il y en a toujours très peu qui reviennent, etc. Jusqu'à temps qu'ils appellent un statisticien qui n'a rien de militaire ou d'ingénierie et Abraham Wald qui fait « Salut, je suis expert en trous de balles ». Blague facile encore
isolé.
Et qui dit « Ok, vous allez me renforcer tous les endroits
où il
n'y a pas de balles en fait ». Puisque les avions sont rentrés et qu'il n'y a pas eu de balles là, il y a de fort à parier que c'est là où ils ont pris des balles, etc. Et ça donne quoi dans la vie courante, le biais du survivant ? C'est-à-dire qu'on va plutôt se dire, je vais devenir YouTuber, parce que, tu vois, Micode, lui, à la base, il était étudiant, il est devenu YouTuber à succès, donc c'est possible. Fabien Ricard, il a lancé ses vidéos, donc c'est possible. Plutôt que se dire, je vais étudier tous ceux qui n'ont pas réussi à devenir YouTuber, en fait. Et c'est quoi et j'ai vraiment fait ça, moi, pour le mentalisme de spectacle.
Okay.
J'ai vraiment étudié les mentalistes que j'estime, que je trouve extrêmement bons, qui ont essayé de se lancer dans le théâtre bien avant moi. Et je me suis dit, comment ça se fait que eux, que je trouve géniaux, ça n'a pas marché. Quelles ont été les erreurs et les faux pas ? Et c'est là, tu vois, que j'ai cherché. Et connaître ce biais cognitif m'a fait gagner énormément de temps, tu vois.
C'est trop bien.
C'est passionnant.
Et juste pendant que tu racontais l'histoire, vu que je la connaissais déjà, le biais du survivant, j'ai essayé de me dire, mais pourquoi diable y ai-je pensé aujourd'hui à ce biais du survivant? Je suis très content. Pareil, quand j'arrive à retrouver un raisonnement comme ça, je suis très très content en général. Et en fait, aujourd'hui, je regardais les Lime à Paris, les trottinettes électriques Lime, Et on en est à la 5e ou 6e différentes versions, en fait, de trottinettes. Et à chaque fois, elles sont renforcées à un nouvel endroit, elles sont plus stock, etc. Et dans ma tête, je m'imaginais typiquement justement toutes les trottinettes Lime retourner à l'atelier et les statisticiens regarder tous les problèmes et renforcer ça aux endroits. Enfin, voilà pour
aux endroits où il y a des pets plutôt que de réfléchir à l'envers.
Oui.
Ou pas.
Ou alors ils avaient vu une vidéo de Fabien. Ils avaient vu les bouquins.
Mais en tout cas, j'ai totalement vu l'avion dans ma tête et j'ai tout le biais du survivant. Je l'ai vu en tête aujourd'hui. Je savais pas que ça s'appelait le biais du survivant.
Et c'est Abraham Wald qui du coup nous permet d'avoir une histoire marquante pour le cerveau, parce que le cerveau il aime bien les histoires.
Grave. Mais tu sais que du coup à chaque fois que le mot, enfin le concept arrive, moi j'ai l'histoire.
Tu vois le bombardier et tout qui, c'est trop bien.
J'ai fait un oiseau là alors que.
Et par contre, autre point, genre c'est vrai que étudier la concurrence qui a échoué, c'est extrêmement.
Et surtout celle que t'estimes. Ils ont le bon produit, le bon concept, ou moi artistiquement par exemple des gars que j'estimais et tout. Et tu dis, mais comment ça se fait que du coup ça marche pas chez eux? C'est ça qui doit m'intéresser. Et c'est pas essayer de reproduire, je veux devenir chanteur, mon chanteur préféré a fait la nouvelle star, donc je vais faire la nouvelle star parce que c'est ça qui va me propulser. Non, ce sont des exceptions en fait qu'on étudie. Les réussites sont des des exceptions et c'est très facile de dire la météo le lendemain, la météo de la veille le lendemain. Oui, c'est facile, tu vois, tu vas toujours trouver des trucs qui collent, quoi.
Tu vas faire des relectures biaisées, etc.
En vrai, faut étudier les deux, quoi, en fait, parce que ceux qui ont réussi, c'est quand même important de les étudier.
Bah, ça va être une source d'inspiration, mais par contre, ils vont pas t'apprendre en vrai les vraies choses à savoir, quoi, tu vois. Moi, par exemple, quand j'écris un nouveau numéro pour mon spectacle, je pars en rodage, tu vois, je teste les trucs et tout. Putain, je suis vénère quand je le teste, et je ne l'ai pas encore testé, hein, c'est la première fois, et tout fonctionne. Je sais que c'est la merde. Il y a forcément des trucs que j'ai pas identifiés, et ça va être quand je vais dans une salle de 2000 personnes que ça va m'arriver, tu vois. Donc je vais le refaire dans les petites salles, jusqu'à temps qu'il y ait des versions où je suis, alors pas forcément où j'ai raté, mais je suis moins content. Okay. Et à chaque fois, ça m'apprend quelque chose, et je me dis, ah putain. Ouais, j'avais pas encore identifié ça. Là, je peux renforcer le numéro là. Là, il est pas assez rythmé là parce qu'on s'ennuie. Là, le truc de mentalisme a pas fonctionné parce que j'avais pas pensé à ça. Et tu vois, il faut qu'il se passe un peu mal, tu vois. Et je parlais avec un sportif qui fait du longboard et du dancing longboard. Et il me disait pareil, s'il rentre un nouveau tricks en one shot.
Donc, attends, il danse sur des skates.
Ouais, exactement. Il est vénère parce qu'il sait que son corps, il l'a pas encore bien compris. C'est pas possible, tu vois ce que je veux dire. Il y a forcément des mauvais placements de pieds ou des trucs comme ça qu'il a pas encore identifié à ce moment-là, quoi, tu vois.
Trop stylé. Le pont était imprévisible.
Ah, complètement. Ah ouais,
avec le dancing vance bas.
Il m'a laissé sur le bord de la piste comme ça, là.
Mais très bien.
Mes chers amis, je vous propose qu'on passe à la suite. On va accueillir un hacker qui va nous parler de manipulation. On reste dans le thème et de ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Merci énormément à toi, Benjamin. Tu nous quittes.
Le cœur lourd.
Oui, le cœur lourd. Et on se retrouve une autre fois avec grand plaisir. T'es bienvenu sur Underscore, tu le sais.
Bah, c'est un énorme plaisir. Niment. Je sais plus parler. C'est le moment où je m'en aille, je pense.
Il y a une émotion.
Fabien, c'était un plaisir de te rencontrer.
Trop cool.
Et on te suit sur YouTube. Bien entendu, on drop ça dans le chat si possible. C'est le format, c'est Upvote, comme vous l'avez peut-être vu dans ce magnifique générique. Upvote, je le rappelle parce que la dernière fois, j'avais oublié de le faire. Mais le principe, c'est très simple, c'est de mettre en avant un projet ou une personnalité particulièrement intéressante, voilà, que vous connaissez peut-être pas forcément. Et aujourd'hui, on accueille monsieur Brice Ogras. J'ai dit monsieur, alors que tu es pourtant extrêmement jeune. Mais
merci.
Ouais, mais en fait,
on a tellement de respect pour ce que tu fais que moi aussi, tiens, le monsieur viendrait assez vite, ouais.
Non, parce que vous allez me vieillir, mais je le prends bien si je suis considéré comme un jeune homme.
Alors, pour expliquer ce que tu fais de la vie de tous les jours, tu es hacker éthique, on peut dire ça.
Exactement.
Nous, on a dit que tu étais le James Bond des temps modernes.
C'est très élogieux.
Quel est ton travail?
L'appellation hacker éthique, ouais, c'est une belle appellation parce que ça permet, je dirais, de recadrer un peu ce qu'on connaît du hacker.
Exactement. On les connaît. Préjugés néfastes.
Préjugés, les casseroles hollywoodiennes avec l'épisode du NCIS le samedi soir où il y a, je sais plus, je crois que c'était Abby, je sais plus qui, ils étaient à deux en train de taper sur le clavier. Bien oh, full cliché.
Et c'était pour aller plus vite.
Bien full cliché, ouais.
Tu sais, c'est jamais. J'ai en train d'hacker le mot de passe.
Donc, hacker éthique, ouais, qu'on essaye de remettre, sur le devant de la scène puisque, à contrario du cybercriminel, c'est remettre la bonne étiquette sur les bonnes personnes.
Bien sûr.
L'éthique, on pourrait en faire un débat complet.
Bah, totalement. Et puis, c'est une notion qui peut paraître contre-intuitive, mais en fait, l'offensif, c'est hyper important pour derrière mieux se défendre. C'est-à-dire qu'en gros, ton travail qui est de casser littéralement des sites, de rentrer dans des entreprises, en fait, ça a une vraie utilité derrière.
C'est ça. Il y a un proverbe, c'est « Sevis passem parabellum ». Avec le meilleur accent latin de ce qui m'en reste du coup. Si tu veux la paix, prépare la guerre.
Bah, bien sûr.
Et effectivement, donc l'approche qu'on mène, c'est des approches offensives au sens large. Ça peut être physique, virtuel, aussi un peu de sensibilisation, puisque l'ingénierie sociale qui est le sujet de ce soir, ça passe aussi à travers la sensibilisation ou l'exercice des réflexes humains. Et puis
c'est
ça
dur,
marche
mais...
avec le biais du survivant. Hein. Ouais. En fait, il crée lui-même l'attaque pour trouver
exactement,
la femme,
pour savoir où sont les trous.
Ouais, non, mais c'est vrai.
On file la métaphore.
On est assez.
C'est donc un spécialiste en trou de balle.
Voilà, exactement.
D'un avion qui prenait des balles et c'est.
J'ai entendu, j'ai bien suivi.
Comment on pourrait définir l'ingénierie sociale? Il y a un côté très technique avec ingénierie et qu'on a l'impression que ça jure.
Très social avec social.
Avec social, voilà. Merci.
Si on fait approche entonnoir, l'ingénierie, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est comprendre, c'est créer, c'est concevoir, c'est finalement tu prends quelque chose ou à défaut tu réponds à un besoin ou sur lequel personne s'est positionné et tu fais en sorte de l'étudier et d'avancer.
Et ben là on fait ça avec des gens. C'est
on fait ça vis-à-vis du social. Alors c'est très large, ingénierie sociale, parce que j'ai quand même fait un peu de recherche parce que nous on est sur un micro-pool qui est celui de la cybersécurité.
Ouais.
Il y en a sur le plan politique. La propagande, à mon sens,
ouais, ça
c'est de l'ingénierie sociale. Il
ouais. Y en fait, a sur tu, le plan. Ouais, tu structures un système de pensée et une véhiculation de messages en anticipant les mouvements de pensée des personnes. Ça en est.
C'est du... Après, à défaut de bien comprendre les humains, je pense, comme toi, des fois, on fait plus sur de l'approche sur du forcing, très clairement.
Ouais.
Et finalement, on va avoir tendance à servir d'outils techniques pour... pallier à ce savoir qu'on n'a pas, qui est de regarder la personne en face et de s'approprier ses micro-expressions, de comprendre comment il fonctionne et de construire tes interactions à partir de ça. Ça, on sait pas le faire. Ou à défaut, on sait le faire de manière très grossière. Quelqu'un qui te regarde avec tes grands yeux, tu comprends qu'il est étonné. Mais
tous les gens qui font la cybersécurité dans ce domaine-là sont pas forcément des experts
en psychologie,
mais du coup...
Pas forcément,
tu peux
effectivement.
Avoir une sensibilité psychologique aussi qui vient de l'expérience après. Parce que de la même manière que il te faut forcément aussi un appui technique dans le sens où il y a un enjeu à ce que tu fais.
Oui.
C'est pas, t'es pas en train de faire
un tour,
une vidéo ou un spectacle pour la rigolade, quoi, tu
c'est
vois.
C'est,
y a un vrai enjeu derrière.
Après, sur la cybersécurité au sens large, bon, les métiers de la cyber, enfin, tu sais, c'est un peu un terme fourre-tout maintenant.
Ouais.
Donc, t'as de la gouvernance, t'as de l'expertise technique plus, t'as les gars qui savent faire de l'hardening, t'en as des faux qui vont faire du blue team, du red team, donc attaque.
Qu'est-ce que ça veut dire,
je sais.
Parce que, allez, on a hyper envie de rentrer tout de suite dans le dur. Mais donc, red team, blue team.
Red team, blue team. Donc, t'as le point de vue offensif, attaquant, et blue team plus défensif, réponse à attaque.
On dirait un jeu vidéo, mais c'est
très sérieux.
Ouais, c'est extrêmement sérieux.
Et il y a une partie plus orientée, la conduite du changement, ça passe à travers de la sensibilisation. Un exemple type pour que ce soit un peu plus parlant, quand on fait une campagne d'hameçonnage à la française ou phishing en anglais pour des clients, c'est dans le but de tester les réflexes humains, d'en jouer avec, puisqu'on c'est ce qu'on nous demande. Là-dessus, on est déjà plus sur une approche psychologique finalement, à travers un outil technique, c'est vrai, qui est celui d'envoyer des mails, de cibler des services, etc. Mais derrière, là, ça prend la dimension psychologique.
Okay.
Et sur l'intrusion physique, c'est plus là où on le retrouve parce que
j'ai un micro message. Si Gabin peut aller chercher les pizzas.
C'est vraiment le pire, c'était juste passionnant. Et là, le micro-message, moi je m'attendais à. On a un truc sur le micro.
Rapproche ton micro, mais non, c'est plutôt.
J'ai faim, c'est pizza.
Non, non, c'est vraiment pas en mode il faut il se déplacer, c'est qu'il y a un livreur devant la porte.
Ah merde.
Oui, oui, c'est pour ça, je suis désolé. Mais en gros, normalement, il y a quelqu'un qui est chargé de la récupérer, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Moi, je suis désolé. Du coup, reviens dans le vif du sujet.
Dimension psychologique.
Ouais. C'est une épreuve de manipulation aussi.
En gros, tu passais du phishing à l'humain, au contact.
Ouais, c'est ça. Et là-dessus, alors, on le connaît de manière très standard aujourd'hui. Ceux qui sont un peu dans la tech ou même déjà sensibilisés sur ces problématiques de cybersécurité, le phishing, ils en ont entendu parler. Les fraudes aux faux ordres de virement ou la fraude au président, c'est déjà des sujets qui parlent un peu plus.
Un peu, mais je te jure, je pense qu'il y en a encore beaucoup qui savent pas forcément ce que c'est.
Moi, j'ai travaillé en conférence pour des grosses banques pour les aider à lutter contre la fraude au président.
Justement. En mode réponse à invitation.
À l'attaque.
Ah, c'est génial ça.
Est-ce que
je crois qu'on a plein
de trucs
à dire.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la fraude au président?
La fraude au président, c'est je vais cibler, enfin un cybercriminel, pardon, va cibler une entreprise, donc il va profiter d'une temporalité certaine, typiquement le moment où le président est en période de vacances, en déplacement professionnel à l'étranger et peu joignable.
Information qu'il pourrait récupérer.
À la surexposition médiatique qu'on fait tous de nos jours, réseaux professionnels, réseaux sociaux, nos photos maillot de bain glace sur la plage.
Exactement, donc le président, on sait qu'il est à Ibiza.
Tout à fait. Et il va profiter de cette temporalité. Alors, je prends le cas très spécifique du président, mais on peut le décliner sur plein d'acteurs au sein d'une entreprise. C'est juste de la créativité. Et il va profiter de cette temporalité pour appeler le comptable, finalement. Et bon, on peut en parler, puisque ça a été médiatisé. L'exemple des cinémas pâtés, à l'époque, c'est ce qui s'était passé. C'est, je suis en déplacement, je suis sur le point de signer un gros deal. Et là, on commence à rentrer dans l'humain. On déclenche une réaction d'urgence, de mise sous pression de l'interlocuteur qu'on a en face, et lui dire, il faut que tu me fasses un virement. En l'occurrence, je crois que c'était 19 millions. Et le truc est passé smooth.
Oh la vache.
Mais non, mais nous on a un process et tout. Bon, tu veux être responsable de ce deal qu'on signe pas?
Ouais. Tu veux être responsable d'une perte de 19 millions?
Non, mais tu fais un combo culpabilisation, ouais, urgence en fait. Et alors sympa, mais... oui, grâce à l'outil informatique. Et aujourd'hui, il est même renforcé par l'outil informatique. Les approches fake voice, là où ils arrivent à partir d'enregistrements, ouais, surtout si c'est une personnalité publique, à reconstruire oui, un discours fictif complet qui leur sert et qui appuie leur vecteur d'attaque. Et ça, c'est assez ouf. Enfin, sur le plan technique, au-delà de l'illégalité, sur le plan technique, c'est quand même...
C'est incroyable, surtout que les gens sont même pas encore totalement... c'est même pas totalement, c'est... Il y a encore énormément d'entreprises qui sont pas prêtes à recevoir des attaques de type classique qui existent avant. On est déjà en train de créer des outils qui vont leur redonner 10 ans de retard, quoi.
Et tu vois, ça marche avec ce qu'on disait sur la manipulation tout à l'heure. C'est-à-dire que dès le premier truc où ton premier red flag, c'est vraiment cette urgence imposée immédiate.
C'est les caractéristiques
voilà,
dans
c'est
les...
pas forcément un mauvais truc, mais tu dois avoir une vigilance déjà de cette oppression avec décision ultra rapide. C'est louche, pas bon signe, ouais.
De manière anecdotique, sur les campagnes de phishing, il y a l'aspect cupidité aussi qui ressort,
bien sûr,
avec une temporalité très courte. Quand on fait des campagnes de phishing, pour le contexte, je ne sais pas si je l'ai cité jusqu'à maintenant, légal et cadré dans un contexte professionnel, début de mois, tu cibles l'erreur de la fiche de paye par les services RH.
Ah ouais, pas
mal. Mais pas la grosse erreur.
Et là, t'as un pourcentage d'ouverture de mail et du clic pour aller vérifier la véracité de l'erreur beaucoup plus rapide que voici les nouvelles directives sanitaires. Et pourtant, déjà, avec les nouvelles directives sanitaires pendant la période Covid.
Il y a des bons résultats. Pour expliquer pour les gens qui connaissent pas forcément ce métier, en fait, toi, tu vas potentiellement, pour un client qui a envie de peut-être tester ses employés, voir quelles sont les failles humaines qui pourraient exister dans entreprise. Tu vas être amené à toi-même te mettre dans la peau d'un attaquant.
Exactement.
Et de simuler, en fait, totalement une attaque. Donc, c'est toi qui peux envoyer, par exemple, un mail de phishing.
C'est tout à fait ça, ouais. En fait, on est, de manière un peu provoque, on est payé pour casser, on est payé pour tester.
C'est ton t-shirt, d'ailleurs.
c'est mon t-shirt. Mais de manière professionnelle, éthique, parce que c'est cadré, sur plan contractuel et toutes ces joyeusetés administratives qu'on aime traité au quotidien, mais surtout c'est une façon de mettre en évidence ce qui va pas, mais pas avec une volonté d'appuyer du doigt ou de désigner ceux qui ont eu les torts, parce que derrière c'est pas une approche constructive si on cherche juste à alimenter un sentiment de culpabilité. C'est plus éduquer par la sensibilisation. Et alors c'est vrai que ces exercices, c'est pour nous c'est très fun sur le plan technique lorsqu'on les réalise, mais l'étape a posteriori qui est le désamorçage de la situation l'est tout autant. Aller voir en disant le phishing, c'est très simple. Quand on est sur des audits d'intrusion physique, qui est un peu le step à part et qui donne lieu à d'autres vecteurs d'attaque, là c'est vraiment une approche où faut les collaborateurs des clients qu'on teste, ils réagissent de manière des fois assez surprise, ils vont se braquer. Il faut tout de suite arriver à faire tomber la pression.
C'est normal qu'on ait réussi, au contraire.
Puis il faut l'impliquer aussi. Des fois, ils réagissent mal. C'est pas grave, vous avez pas réagi dans l'instant, mais a posteriori, vous avez tout de suite été voir votre DSI, le directeur du service informatique, et c'est communiquer, parce que c'est quand même...
Le but, c'est que ça s'améliore.
C'est un viol d'intimité, d'une certaine manière.
D'ailleurs, concrètement, quand il va physiquement, c'est quoi ton goal? Ça peut être, j'imagine, multifaceté, mais c'est... il faut que tu arrives à récupérer tel dossier dans telle salle, ou c'est...
C'est très souvent...
J'ai Hitman là dans ma tête.
C'est improvisé et opportuniste sur la méthodologie, on aime bien poker, parce que derrière ça nous permet d'avoir de retours d'expérience en termes de mesures sur qu'est-ce qui marche bien, qui matche bien avec tel scénario d'intrusion, parce qu'on a un peu tous les types de caractères dans l'équipe aussi, donc on essaie de jongler et de faire des pokes techniques intéressants.
Alors quand tu dis POC,
Proof of Concept, à la française, je pourrais pas dire.
C'est une preuve qu'un concept fonctionne. Preuve de concept.
Des preuves de théorisation.
Ouais,
de...
c'est un petit un test, quoi. Ouais, voilà. C'est vrai que c'est très dur à traduire correctement. Mais...
Bah ouais.
Et j'ai perdu.
Et donc suivant les personnes de l'équipe, les aptitudes de chacun, etc.
C'est ça.
Donc ma question initiale, c'est ça va être quoi le goal, par exemple, sur un scénar, quoi?
Alors sur un scénar, le goal, c'est se servir de la vulnérabilité humaine pour arriver à nos fins sur le plan technique. sur une intrusion physique, ce qu'on va nous demander, c'est de prouver la capacité effectivement à exfiltrer de la donnée. Donc ça peut être de la récupération d'informations en libre disposition des documents.
Okay.
Si on est vraiment totalement libre dans les locaux, ça va être se servir de ce qu'il y a sur les imprimantes et de relancer certaines impressions s'il y en a encore en cache. Sur un plan plus technique, par contre, cette fois-ci, on est toujours avec le backpack. Et puis, on a nos petits boîtiers électriques qu'on branche sur une prise, un câble Ethernet. Et puis, c'est fini. On a un accès distant sur le système d'information. Là, c'est vraiment ce que les clients cherchent à mettre en évidence. Et puis, derrière, qu'on déroule tout ce qu'on appelle le scénario de post-exploitation technique.
C'est vraiment comme Mr. Robot. il fait ça. Ouais. Il se ramène, il met son petit Raspberry, etc. pour avoir accès au réseau.
C'est exactement ça. C'est les boîtiers de dérivation et de dérivation électrique, parce que ça tient dedans. On a d'autres formats.
Tu le caches à l'intérieur, du coup?
Ouais, on le cache. Et puis, derrière, pour avoir un peu de flexibilité, c'est les câbles Ethernet, c'est des salles de réunion que tu peux dérouler comme tu souhaites et mettre à la longueur avec un ressort au milieu. Je te montrerai.
Ouais, vraiment, ça me...
Et puis derrière, en fait, tu le branches. L'idée, c'est juste... Ça, c'est vraiment la finalité recherchée. Ouais, après, le moyen...
Moi, je trouve les appareils modifiés, où tu viens, genre les câbles d'iPhone, où en fait, à l'intérieur, t'as...
Sur Hack 5, c'est le Hack 5, Hack 5, je sais plus, c'est une boutique...
Hack 5, c'est une boutique qui vend du hardware de sécurité.
Là-dessus, c'est la haute du Père Noël, quoi. Tu remplis le shop et puis après t'en as le métier.
On en a quelques-uns là. J'en ai acheté quelques-uns, potentiellement on fera des reviews. Ils font des petits bijoux pour tester la sécurité de réseau wifi ou même physique comme t'expliquais. Après, vous utilisez leur matos?
Alors on a une partie de leur matos. Typiquement, je vais totalement transparent. Je sais pas si on a le droit de brander ou autre. Sur la partie Hack 5, on trouvait les rubber ducky, donc qui sont des petites clés USB. Alors on l'utilise dans des campagnes de ce qu'on appelle l'USB dropping. On va viser une périphérie la périphérie du site qu'on est en train de tester. On va aller cibler particulièrement les zones de passage au niveau du parking. Et effectivement, on va disséminer une dizaine de clés USB. Si tu le fais avec des rubber de key à $70 pièce,
ça fait cher.
Si t'en récupères que la moitié, ça fait vite cher la mission. Ouais. Donc en fait,
il y en a des modifiés sur AliExpress.
On les prend sur Amazon. Il faut qu'on lui paye. On les paye 15€, 25€, les 5, à peu près. Et c'est Digispark. Et puis après, tu mets un case en 3D propre.
Ouais.
Et puis, tu mets l'étiquette confidentielle histoire d'augmenter le.
Ça marche.
L'attrait.
Ouais, non, mais là, tu vois, c'est comme tout à l'heure avec ton appât. C'est-à-dire, c'est comment tu stimules, en fait, l'être humain, quoi.
Là, c'est curiosité, du coup.
Ouais, c'est ça.
Et du coup, tu t'écris que confidentiel et tu vois littéralement une augmentation
de. Confidentiel ou perso. Alors. On n'a pas fait de mesure pour l'instant là-dessus. On n'a pas eu le temps de le faire en mode R&D. On diversifie plus pour le fun. Par contre, Google avait sorti un talk à la DEFCON, je crois, à ce sujet. Où t'as eu un talk soit à la DEFCON, soit chez Google. La source, bien fiable, l'info.
Non, mais nous, on a un source internet à tout moment. Toutes tes sources sont validées par le source internet. Mais ouais, je sais pas si tu l'as remarqué. Tout le monde le prend au premier degré.
C'est quotidien, là. Source internet.
Sur YouTube, tout le monde vraiment le prend en mode full premier degré. En mode, oh, les gars, vous pourriez faire des efforts quand même, mettre source internet, c'est un peu abusé. Ils avaient juste pas quoi mettre sur la fenêtre de Windows, on a mis ça.
Très drôle.
Et ils avaient fait une étude là-dessus, avec un vrai retour mesuré de sur le campus, temps de dropper, sur le parking, temps de dropper, tel les échantillon. Stats, et là, c'était vraiment une approche méthodique, mathématique et bien cadrée.
Okay.
Chose qu'on fait pas, parce qu'il avait fait avec un échantillon beaucoup plus important de 100 ou 200 clés. Okay. Et super intéressant comme talk à aller voir là-dessus.
Trop stylé. Alors, du coup, bon, on est entré très très vite dans les détails, mais.
On a directement fini sur le line.
Tu fais aussi, en fait, du logiciel, c'est-à-dire, sur ton temps libre, tu vas essayer de tester des vulnérabilités logicielles, faire ce qu'on appelle les bug bounty, on en parle de temps en temps. Potentiellement aussi faire.
Ça, j'ai pas un bug bounty.
Un bug bounty, c'est un programme d'une entreprise. Alors, tu me dis si je me dis n'importe quoi.
Je te laisse.
Mais c'est un programme d'une entreprise. Public ou semi-public ou peut-être un groupe de hackers ou une entreprise comme Yes We Hack qui fait ce t-shirt, qui est l'entreprise de Corben d'ailleurs, je sais pas si tu connais Corben. Lui il fait ça et où en fait tu proposes à n'importe qui trouverait une vulnérabilité sur ton site ou sur tout le site ou seulement une portion de te le signaler et de gagner un bounty, donc une récompense, que ce soit monétaire ou autre d'ailleurs. Comment tu dis?
Le swag, ils appellent ça le swag, c'est tout ce qui est goodies en fait.
Okay.
Sac à dos, produits dérivés, etc.
Et donc voilà pour motiver les gens à
débugger, pour
aider à que le site soit plus sécurisé. Okay. Mais bon, c'est en ce moment, j'ai l'impression que ça se débloque bien. Mais il y a une période où c'était vraiment mal vu, en mode t'es en train d'autoriser des hackers, t'es en train d'encourager des gens à hacker ton site, et ça c'est pas bien.
Bien entendu. Ah, c'est le temps que ça rentre dans les mœurs. C'est toujours marrant de voir le décalage qu'on a avec les US sur ces sujets dans la manière dont les technos se développent et arrivent chez nous, mais sur la partie bug bounty, ouais, ça se développe bien.
Trop bien. Alors ça, c'est la partie que les gens connaissent un peu plus, donc le logiciel, etc. Et ce qui est fou, c'est qu'une bonne partie de toi, ton travail, c'est de faire du physique, quoi. C'est ce que tu racontais.
Physique, ouais.
D'introduire physiquement dans les entreprises. Est-ce que t'as une, peut-être, tu peux pas forcément citer, j'imagine, les noms des clients
non.
concernés.
Non. Accord de confidentialité.
Voilà.
Mais on peut,
est-ce que tu as peut-être une histoire qui t'a particulièrement marqué pour un client?
Il faut pas mettre en avant que les victoires ou que les trucs fun. Il y a aussi les fails, parce que c'est pas une science exacte. Ouais. Donc, on va commencer par les fails, histoire d'avoir aussi un peu d'autodérision et que ça fasse pas trop e-pénis.
J'ai bien d'apprendre cette
expression. Sur la partie fail, il y a eu une mission. On s'était amusé à splitter on avait deux sites en même temps. On avait splitté l'équipe en deux. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'intrusion, mais il faudra qu'on revienne sur l'aspect vraiment préparation et OSINT. Donc Open Source Intelligence Gathering, c'est à travers toute l'exposition, toute l'information qu'on agrège avant pour cadrer.
C'est ce que tu disais quand tu disais, avant en fait de faire une attaque au président, on regarde les réseaux sociaux des employés du président pour récupérer un max d'infos.
On appelle ça du hot trading. C'est vraiment l'inverse du cold trading. C'est tu vas t'imprégner de toutes les informations disponibles déjà.
C'est exactement ça.
À défaut de créer le contexte, on l'absorbe en fait.
Mais donc là, on a cité les réseaux sociaux, mais l'OSINT, ça concerne
c'est
toutes les sources d'internet en fait.
Qui fait quoi, qui depuis quand, l'orga interne, le Google Street Map du site, quelle taille, combien de temps pour visiter les différents bâtiments à vol d'oiseau, enfin vraiment donc, essayer
quand
se préparer au max pour pas être trop YOLO.
C'est ça. Quand t'arrives en fait, potentiellement tu connais mieux l'entreprise que les salariés eux-mêmes quoi.
En fait, je dirais pas ça, on la voit d'un point de vue extérieur, donc on a un regard beaucoup plus critique et beaucoup plus objectif, parce que c'est vraiment essayer de comprendre leur fonctionnement d'un point de vue externe et mettre en évidence des failles que effectivement eux ne verraient pas. Mais en termes de finalité métier, ils la connaissent bien mieux que nous. Ouais. Mais sur l'aspect problématique de fonctionnement, gestion des flux humains et identification de la vulnérabilité physique, oui, à ce moment-là, de ce point de vue extérieur, avec de la surveillance, avec du stalking aussi qu'on fait, très clairement. Ouais. C'est un peu vicelard, mais c'est ça. On se l'approprie et c'est à ce moment-là, comme sur de la recherche de vulnérabilité logicielle, c'est tu absorbes, tu comprends comment ça marche, et après tu fais la bascule intellectuelle de dire ok, maintenant comment je défais le puzzle ou comment je rentre dedans en mode
où est-ce que tu trouves la
faille sans qu'on m'y attende.
Et est-ce que vraiment on peut aller jusqu'à des scénars aussi clichés que ok, aujourd'hui je suis Adrien électricien et je viens.
Alors, c'est parfait. Vu qu'on a un peu dérivé, tu me retends le bâton pour l'aspect le gros fail qu'on avait fait. Ouais. Donc du coup, effectivement, il y a l'approche faux badge, faux t-shirt, faux bon d'intervention. Des fois, c'est une feuille A4 où j'ai même des collègues qui s'amusent à troll où c'est juste griffonné dessus. C'est même pas legit et crédible.
Ils écrivent quoi? Oui, je.
Ah non, juste tu griffes. Oui, des fois, on le fait de manière très pro. C'est vraiment, on fabrique un faux bon d'intervention avec le tampon. On va aller chercher le logo,
société,
etc.
Société quoi, d'électricité, ce que
généralement, vu qu'on vise la salle IT comme étant le Saint Graal, on va plutôt orienter en fonction des différentes technologies sur lesquelles la boîte bosse, via les profils LinkedIn des gars techniques typiquement. Donc on va connaître leurs partenaires, on va connaître leurs sous-traitants, leurs prestataires de services, et on va construire à partir de là. Donc là, on fait les badges déjà, et c'est là le premier fail, c'est sur un client, on avait fait un badge, on avait récupéré le logo, et la personne qui nous avait accueillis avait vraiment tiqué, parce que lui-même, sur son badge, le logo qu'on avait pris était trop récent. Donc tous les collaborateurs
ont changé. Incroyable.
On avait pris sur le site comme des couillons, et puis du coup, on se retrouve. Et en fait, on s'est fait cramer bêtement à cause de ça. Donc, tu vois, c'est pas une science exacte. Et finalement, des fois, on arrive, on est sûr qu'à 9h, il y a personne. Et puis, le jour où t'arrives, effectivement, là, il y avait la DRH, le DG du site, qui était là en train de préparer une journée événementielle, mais sur laquelle il n'y avait pas eu le com. Donc,
pas d'infos.
Tu te fais planter. Voilà. Donc, des fails, on en a. Des anecdotes assez plus positives, on en a aussi. Ouais. Assez sympa. Sur du phishing, notamment.
On continue juste après sur les réussites. Qu'est-ce qui se passe
quand tu te fais flag. Quand tu te fais, parce que un cybercriminel, il se passe des trucs pas sympa après. Mais toi, il se passe quoi en fait?
Alors aujourd'hui, on n'a pas un arbre décisionnel, puisque là-dessus, en fait, on voudrait vraiment pousser le truc plus loin, avec vraiment constituer un arbre décisionnel sur le backup plan du backup plan du backup plan. Ouais. Sur un scénario où tu arrives à l'accueil, tu te fais toper. Derrière, vu qu'on est plusieurs, il y a toujours une capacité à créer une sorte de, pas de cohue, mais un peu de confusion. C'est ah mais pourtant j'étais sûr qu'on était mandaté. Vu qu'on a généralement un numéro où on sait réellement qui est notre interlocuteur qui nous a mandaté en cas de réel pépin, on joue la semi-vérité.
Et oui, puis, donc t'as en fait un t'as quand même à la fin potentiellement le filet de sécurité.
C'est de dire,
on fait tomber les basques, c'est bon,
c'est clair. Parce que sinon,
tu finis
en JAV ou en fonction de l'agent de sécurité. Enfin, il faut toujours avoir la sortie de secours qui est cadrée, légale et contractuelle. Donc c'est dans tous les cas, quand tu t'engages à faire ça, c'est on interviendra sur tel site, il faut que vous soyez disponible de temps à temps, de telle heure à telle heure, au cas où il y ait une problématique lors de l'intervention. Et puis il y a un nom à communiquer, tout de suite le numéro de téléphone.
Le risque, c'est ce que tu disais, c'est que vous allez en garde à vue en fait.
Tu sais pas ce qui peut se passer, parce que c'est vrai que ça va dépendre des métiers, des sites, de la présence d'agents de sécurité. Donc il faut tout de suite des avancées. On a fail, c'est pas grave, et puis c'est tant mieux, parce que notre but, ça veut aussi dire qu'il y a un peu de maturité, et ils ont une bonne gestion des process, arrivée, sortie des externes. Au sein du site, accueil des intervenants, mise en place de badges, émargement, enfin, ce genre de réflexes humains et procéduraux, normatifs, et qui vont varier. Mais c'est vrai que
Du coup, entre la catastrophe de bas les masques, c'est bon, on avoue, on était des pen testeurs. Entre ça et du coup ça aussi, il se passe quoi du coup, ce que tu es en train d'expliquer, l'entre-deux où
peut-être juste avant qu'il commence, tu sais à quel point ma vie est timée. Et en fait, on a déjà 15 minutes de retard et il faut vraiment.
C'est vrai qu'on est toujours en retard. Je t'en prie, Fabien.
On continue à replay, mais non, on continue à s'écrire.
Avec plaisir.
On se revoit du coup. Ouais. C'est très cool.
Pas de souci.
Ça roule.
Filou, c'est vraiment une émission à la one again.
Au revoir tout le monde. Vous savez qu'au départ, il m'avait dit à 20h30, c'est fini. Je suis arrivé, il m'a dit non, c'est 21h40.
Ah, j'ai eu 21h30.
Oui, c'est.
Enfin, ça va, je suis peu chaud.
Merci, copain.
C'est ta petite vengeance pour les toilettes.
Bonjour.
Et on a même pas vu à la caméra. Magie. Fabien s'est transformé.
Incroyable.
Bonjour.
Donc tu as écrit un livre?
Oui, la manipulation, Benjamin.
Alors oui, j'ai écrit ce livre il y a quelques temps de cela.
On y croit. Pardon pour la 15e coupure.
Donc le scénario intermédiaire.
C'est en gros ton backup plan aussi.
Ouais, le backup plan, c'est plus une approche YOLO où on va créer de la confusion. Mais vu qu'on est généralement à deux ou à trois, t'en as deux qui vont porter le process en mode, on va écouter, on se met dans le sas ou est-ce qu'on peut sortir, passer un coup de fil, on vous passe la personne. Et le troisième qui profite de ce moment de ce mouvement de cohue pour faire le forcing en fait, tout simplement. Et très souvent, ça passe.
Ah ouais.
Parce que des fois. Il faut y aller
au culot. Ouais.
Il faut vraiment y aller au culot. Alors pour le coup, je suis clairement pas le meilleur là-dessus. C'est plus notre collègue qui est un peu plus baraque, imposant, qui va gérer les scénarios vraiment de persuasion et pas d'agressivité, mais passif-agressif
La frontière entre deux. C'est ouf.
Bonjour. De toute façon, on est mandaté. C'est la direction générale qui nous sollicite. Vous n'avez pas votre mot à dire, quoi. Bon, c'est dans son personnage, il se prend pour un contrôleur de l'URSSAF. Et c'est ultra. J'arrive pas. Hein, je peux pas.
Mais en fait, t'as peu d'occasion quand tu fais pas ce métier, de te tester cette qualité entre guillemets, tu vois.
Des fois, ça fait un peu. Enfin, après, il y a aussi de l'appétence, quoi. Tu vas le faire en improvisation, parce que des fois, le lundi matin, tu vas te lever, t'es pas chaud intellectuellement, tu sais, tu te mets dans un personnage. On n'est pas des acteurs de théâtre, très clairement. Notre finalité, de toute façon, notre kiff ultime, c'est on a branché le Raspberry, on a notre shell, on est content, ou à défaut, on est reparti avec la moitié des factures. C'est ça le Saint Graal.
C'est ça exactement.
Mais du coup, après, sur le Blue Bibulga intermédiaire, c'est plus c'est de l'opportunisme. Après, on professionnalise avec Lozin, ça nous aide quand même vachement beaucoup. Et puis
au moment où vous arrivez, vous pouvez répondre à énormément de questions. Ouais. Vous avez en fait, ça permet de baisser vraiment vos chances de vous faire cramer aussi, quoi.
C'est ça.
En fait, ouais, ton taf, c'est de monter des opérations Ocean 11, Ocean 12, ce genre de bail, en fait.
Alors, ça, Il y a quelques missions où ouais, tu ressors avec un petit kiff à la James Bond. C'est et ouf. Ça, c'est pur ego trip, ouais. Hein, très clairement. Mais c'est le truc qui te donne le smile le matin quand tu te lèves et que tu vas taffer, quoi. Ouais, c'est clair.
C'est trop stylé, franchement.
Et d'ailleurs, ton avis de connaisseur technicien et de professionnel, ouais, sur ce genre, justement, de films, de romance, genre, un Ocean Eleven ou ce genre d'équipe montée de toutes pièces pour aller hacker un casino, ce genre de bail, c'est gérable dans la vraie, enfin, c'est des trucs qui te parlent ou c'est de la science-fiction?
Ouais, ça me parle dans le sens où c'est des films avec lesquels j'ai grandi ou j'ai regardé quand j'étais ado. Donc bah oui, ça te fait rêver parce que t'es passionné, il y a de la technique, il y a le côté cinématique, enfin cinématographique qui te fait vibrer quand tu regardes. Sur l'aspect réalisation en elle-même, je pense que sur des opérations vraiment très cadrées, s'il faut un tel niveau d'organisation, ça prend une tournure militaire et du coup je me prononce pas parce que je pense que c'est bien au-delà de, enfin c'est sur de tout autre enjeu finalement que d'aller hacker un casino, et ce serait plus sur des approches, enfin l'exemple Stuxnet à mon sens, sur les campagnes d'USB dropping en périphérie avec disposition géographique très ciblée, on est sur genre d'exemple très cadré, très militaire dans la démarche.
Voilà, ça donne des indices d'où ça vient. Stuxnet, pour ceux qui ne savent pas, c'était une opération qui enrayait les centrales iraniennes, si je dis pas de conneries.
Les
centrales nucléaires.
D'uranium, c'était les centrifugeuses d'uranium.
Ouais, je crois.
En Iran, ouais.
Donc on en reparlera plus largement de cette histoire. Je pense que j'ai toujours voulu en faire une vidéo sur ma chaîne parce que c'est une histoire digne d'un film. Donc on reviendra dessus. Mais tu allais nous parler potentiellement de fois où ça avait réussi. Est-ce que t'as potentiellement un exemple ou deux de trucs où t'étais particulièrement fier de ton coup ou...
Alors, c'est plus des anecdotes amusantes où effectivement des fois l'intrusion physique on la corrèle avec l'intrusion sur l'open test virtuel. Ouais. Et où effectivement t'arrives à corréler les deux. Où t'arrives sur site et t'as pas besoin de gérer l'humain parce que du coup considérons un système d'interphonie avec portail commandé que tu peux ouvrir.
Ok.
Et par le biais d'un accès WAN directement. Et là effectivement quand tu vis ce genre de situation, généralement t'as trois Kekos dans la voiture tout content de ce qu'ils viennent de faire.
C'est trop bien.
En fait, voilà. Mais on reste corporate hein, devant le client, c'est toujours un rédactionnel et tout, mais quand tu vis le moment, c'est quand même un sacré kiff, quoi.
C'est trop bien. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en amont, vous avez trouvé des vulnérabilités ou un mot de passe qui vous avez permis derrière d'enclencher la porte le jour J.
On aime pas standardiser les process quand on est sollicité sur plusieurs sujets.
Ouais.
Si on est sollicité sur la partie sensibilisation, typiquement phishing, virtuel et physique, on aime bien prendre ces trois blocs et les intervertir et puis voir un peu les combos qu'on peut faire en fonction de la chronologie dans laquelle on les a déroulés. Et là, en l'occurrence, on avait fait virtuel avant physique, donc on a pu faire un combo à la, effectivement, combo, là, la James Bond, où tu chaînes les deux approches, quoi.
C'est insane.
Et voilà.
Ça fait trop envie. Tu tiens une excellente pipe, je pense, pour les gens qui s'intéressent à ces sujets.
Nouveau métier, là. Moi, nouvelle perspective d'avenir, c'est beaucoup trop passionnant, c'est sûr.
Mais trop bien.
Aujourd'hui, ça recrute de fou le hacking éthique, et en termes de ressources formées et opérationnelles en France, il y a une pénurie de fou.
Ouais.
Et de toute façon, on peut que inviter les jeunes, avec ou sans diplôme, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autodidactes aussi,
bien sûr,
à se lancer, parce qu'il y a tout à apprendre, il y a tout à faire. Et en termes de taf, il y en a pour, il y en a pour des années.
Il y a peut-être un truc qui a fait que les gens commencent à s'y intéresser de plus en plus, c'est la culture populaire plus réaliste. Je pense à la série Mister Robot, par exemple. Ouais. Qui a été relativement plébiscité par les gens un peu du domaine, notamment parce que je crois qu'ils ont ils l'écrivent avec des professionnels de cybersécurité. Toi, tu l'as regardé? Ça, il y a des trucs où tu t'es dit pas réaliste, ou alors t'as eu des moments où tu t'es dit waouh putain, ça c'est mon métier et c'est dans un film, quoi.
Sur l'aspect réaliste, ça faisait plaisir de voir une série comme ça, parce que justement quand j'en parle d'un peu de l'évolution cinématographique des références à cœur, enfin vu qu'on est passionné du domaine globalement, t'aimes bien te mater un film comme ça
bien sûr,
qui te rappelle ce qui te fait vibrer au quotidien, quoi. Et quand tu vois du Mister Robot, quand tu stalks un peu le contenu, ça fait quand même partie des références où c'est effectivement ce qui ressort comme étant le plus sérieux, quoi.
Si tu fais pause pendant qu'il écrit ces trucs-là.
T'as aussi quelques petits YOLO, je crois, sur les, je sais plus si c'est saison 1 ou 2, quand il fait sortir le gars de prison avec les attaques Bluetooth.
Ouais.
Où là, c'était bon.
Bah après, on, c'est peut-être des libertés aussi qui sont obligés de, enfin, qui décident de prendre pour faciliter le scénario aussi, quoi.
Après,
sur c'est une bonne série, vous faites ça, Soit
Bon, alors moi, je l'ai regardé, je trouve la première saison excellente.
Après, c'est un peu psychotrique.
Exactement. C'est que, en gros, c'est pas que une série de hacking. Ouais. C'est aussi, comme tu dis, je vois comment, quel est le terme.
J'ai dit psychotrip. Voilà, psychotrip. J'ai improvisé.
Je sais pas comment le décrire. Mais, en gros, test. Si t'aimes le hacking et ce genre de série-là, tu vas adorer. Okay. Si t'aimes que le hacking et que, ouais, potentiellement, tu vois, ça va pas fit. Okay. Mais, quand même.
M'a intrigué, là.
Très bonne critique de tout le monde, hein, quand même. Mais ouais, je me suis dit en tant que pro, tu vas voir enfin des trucs qui sont à peu près crédibles, parce qu'on part de loin quand même, hein.
Ouais.
Putain, on parle des écrans verts, là.
Il y a en plus des sites qui référencient les top fails, ouais, des InfoSec Movies, et t'as des trucs. Il y en avait un, je crois que c'est, je sais plus si c'est Independence Day, où ils faisaient le premier hack en remote à une époque où les réseaux sans fil. Enfin, le Wi-Fi, ça existait pas, quoi. Ouais. Enfin, t'as le coup de NCIS, t'en as
finalement
plein.
Ouais, ah, merveilleux. Ah, mais c'est pas le mec de Ackerman,
c'est ça? C'est Ackerman, ça.
Ah, mais incroyable. Eh ben, mesdames et messieurs, on arrive. Vous allez pouvoir peut-être rejoindre le match pour ceux qui nous avaient préféré. C'est très gentil. De toute façon, si vous avez raté des petits bouts, vous le savez, il y a la chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver les extraits du live. Remonter, n'est-ce pas, si vous avez que 15 minutes, c'est très pratique. Sinon, il y a le podcast, tout simplement, qui sort le vendredi matin en général. Donc, vous pouvez réécouter toute l'émission en audio sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas aussi à follow cette chaîne Twitch. Et nous, on se retrouve mercredi prochain à 20h. J'ai oublié de préciser que vous pouvez retrouver Benjamin Cote sur sa chaîne YouTube et Twitch. On est sur la plateforme, allez le follow sur Twitch.
C'est vrai, vous pouvez. Venez.
Tu fais du live coding.
Ouais, dernièrement, je fais plutôt du rien. Mais si vous followez, vous êtes sûr que la prochaine fois, je vais revenir au max avec des trucs de ouf.
Trop bien. Et où est-ce qu'on peut suivre tes travaux?
C'est l'instant un peu promo, c'est ça?
C'est l'instant promo. Bon, profite-en.
Twitter, Riverzax. Et pour ceux qui cherchent un job, le processus de recrutement est caché sur le site.
Ah, intéressant. Si vous savez pas quoi faire de votre soirée, potentiellement, allez voir. Vous pouvez retrouver ça, j'imagine, sur ton Twitter, du coup.
Ou bzdon.fr, du coup.
Okay. Ça me donne envie d'aller broser le site direct pour essayer de trouver.
OVH est très efficace sur son anti-DDoS. Donc, vous pouvez
y aller. Parfait. Information importante avant qu'on se quitte. Mercredi prochain sera, préparez vos mouchoirs, la dernière émission, de la saison, tout simplement.
Ah oui.
Ah, vous avez peur. Hein.
C'est le petit, ça, c'est le teasing des formations.
Pardon, je mets toujours les mots dans ce sens-là. C'est YouTube. Donc, ce sera la dernière émission de la saison. On se retrouvera bien sûr après un été reposant ou pas. On va travailler d'arrache-pied pour vous proposer une deuxième saison. Toujours au top, de toute façon. Le site est down. Ah. Revenez dans une demi-heure potentiellement. D'ici là, nous, on se retrouve donc mercredi prochain pour la dernière de la saison à 20h. Et voilà, bon match à ceux qui vont aller voir. Et à une prochaine.
Salut tout le monde.
Bonne soirée.
Ciao.
Tchuss.